C'est l'équipe du soir, bonsoir. Oui, ça s'est passé ici, ce soir, du côté de l'Atalanta Bergame. L'OM a été étrié 3-0 par Bergame, donc vous avez compris, il n'y aura pas de finale. Le 22 mai à Dublin pour l'Olympique de Marseille. Présentation Audio Express de nos chroniqueurs du soir. Le président, c'est Raymond Domenech. Dans votre ville-peuple, mon cher Raymond, il y a Siali Dalma, Damien Degore, Philippe Sansfourche et Frédéric Verdier. Bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir, mais...
L'orchestre est à peu près accordé. Il y aura deux, trois petites choses à se dire. L'OM qui passe à côté, est-ce que c'est pour vous une surprise ce soir? 3-0, quel fiasco. Quel est le Marseillais qui a été le plus décevant du soir? Je m'adresse aussi aux téléspectateurs pour les notes de l'équipe du soir. Et puis, vous avez le hashtag l'équipe foot où vous pouvez, vous pouvez un peu vous lâcher, hein, mais en respectant l'orthographe et puis sans insulter ni les chroniqueurs ni les joueurs, tranquillement, pas de gros mots. Sur Twitter, c'est dur, je sais. Bilan OM, c'est une saison qui est officiellement un fiasco. Voilà ce qui va nous emmener jusqu'à 1h du matin. La conf de Gasset, plus un sujet sur Tchouaméni qui s'est blessé. Confirmation de Vincent Deluc sur le plateau de l'équipe de Greg. Et c'est sa première dans l'équipe du soir. C'est Grégoire Noali pour les infos. Il n'y a pas de problème, Grégoire. Vous commencez.
Ouais, pas de problème. Bon,
malchance à l'OM. Le résumé de cet Atalanta Olympique de Marseille, 3-0, c'est à vous.
Et Marseille devait absolument gagner face à Bergame et ça n'a pas très très bien commencé. Dès la demi-heure de jeu, la contre-attaque pour Bergame. Lokman, côté gauche, vient enrouler une merveille de ballon. C'est légèrement dévié par Gigot, ça fait 1-0. L'Atalanta fait leur premier pas vers la finale. Et puis ici à la 49e, l'occasion de l'égalisation pour Ndiaye qui manque complètement son lob. Manque de précision pour le Marseillais, c'est leur première action de cette seconde période. À la 52e, Ruggieri va s'appuyer sur Lokman, le 1-2 et la frappe parfaite du défenseur, c'est pleine lucarne, 2-0, les Marseillais prennent un vrai coup sur la tête dès le retour des vestiaires. Et puis Kondogbia va complètement se manquer et El Bilal Touré pour le 3-0, l'OM est donc éliminé de cette Ligue Europa.
L'OM qui passe à côté, est-ce que c'est pour vous une surprise? Habillage à l'Olympique de Marseille s'il vous plaît. Et on y va. Damien, surprise?
Non, pas une surprise.
Pas une surprise, non. Thierry?
Oh, quand même.
Oui. Monsieur Verdier?
Dans ses proportions, oui.
Monsieur Sansfourche?
Non.
Non? Bon, écoutez, Raymond, vous avez déjà du boulot. Hein.
C'est déjà, il faut déjà que je fasse la manivelle.
Ah, la petite moulinette.
Allez, on y va, c'est parti.
C'est parti, super duel. C'est deux amis de 30 ans qui font équipe, c'est Degore et Sansfourche. Ils ont répondu non. Philou ou Damien, qui commence?
Allez, Philippe commence.
Philippe, allez. Le plus hardi, allez. Commencera, mais voilà. Et puis Siani et Fred, deux amis d'une demi-heure à peu près, font équipe. Allez. Siani ou Fred?
Je vais commencer.
Ok, Siani. L'OM qui passe à côté, c'est plutôt surprenant pour Siani Dalma. On vous écoute.
Effectivement, je me disais qu'après le match aller, alors même s'ils ne sont pas très bons cette saison à l'extérieur, ils auraient quand même cette étincelle qui les porterait sur cette demi-finale retour. C'est un match pas comme les autres. On sait que l'OM a cette culture de la Coupe d'Europe. Donc voilà, on pouvait imaginer qu'ils ne prennent pas une déculottée comme ce fut le cas ce soir. Il y a manqué beaucoup trop de choses à cet OM. Moi, je ne les ai pas reconnus. Je n'ai pas trouvé qu'ils avaient pris la mesure de ce match. Et au final, ils sont complètement passés à côté. Je suis surprise parce qu'il y avait vraiment un beau truc à vivre au bout.
Oh, OK. On passe à Philippe Sansfourche qui n'est pas surpris. Non, pourquoi?
Parce que le meilleur joueur de l'OM, c'est le Vélodrome. Et qu'à partir du moment où tu joues pas chez toi, et bah, tu retrouves le niveau que tu as eu tout au long de la saison, c'est-à-dire un avant-dernier de Ligue 1 à l'extérieur. Contre une équipe de l'Atalanta qui, elle, m'avait surpris dans le mauvais sens du terme au match aller, en étant notamment en seconde période très attentiste. Là, on a retrouvé l'esprit Gasperini, on a retrouvé une composition d'attaque avec Lookman et Scamacca d'entrée de jeu. Et moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, j'avais déjà peur pour l'OM et derrière, ce qui s'est passé, j'ai pas été très surpris.
Ok, pas surpris, un peu surpris, Frédéric Verdier, pourquoi?
Oui, très surpris par les proportions prises par la défaite marseillaise. Très surpris aussi par ce qui m'a même bluffé, c'est cette espèce de nonchalance que j'ai cru voir, déceler chez certains. J'ai pas reconnu ceux qui sont capables de porter l'OM, les Aubameyang, les Klos, les Kondogbia, je les ai trouvés étonnamment atones. Donc ça oui, j'attendais au moins des chiens qui se dépouillent, j'ai même pas vu ça. Et prendre 3-0 là-bas, vu ce qui s'est passé au match aller, je suis très surpris. Oui.
Damien Degore pour le dernier aboiement.
Mais non, mais pas surpris parce que, effectivement, loin du Vélodrome, l'OM ne ressemble plus vraiment à une équipe. On l'a vu en Coupe d'Europe, que ce soit Villarreal, que ce soit contre Shakhtar Donetsk, et même un degré moindre à Benfica, c'était toujours très compliqué. Pas surpris parce que on voit bien que les joueurs qu'évoque Fred, qu'ont porté l'OM cette saison, bah, sont à bout de souffle. Et c'est normal qu'ils le soient. Ils ont été beaucoup utilisés, il y a eu beaucoup de blessures, et cette fin de saison devient pénible. Et pas surpris parce que l'Atalanta Bergame est composée de joueurs qui sont bien meilleurs qualitativement.
Eh ben voilà, est-ce une surprise? Si vous êtes surpris, vous votez Fred et Siani. Sinon, c'est pratiquement un train qui arrive à l'heure. C'est Philippe et Damien. Le président est demandé, Raymond Domenech.
Je peux être d'accord avec un seul truc avec Fred, c'est la proportion, la manière dont
les Marseillais ont lâché.
Marseille ont été dépassés tout le long du match. Mais c'est pas surprenant. Ce qui avait été surprenant, je suis d'accord avec Damien, c'est que l'Atalanta au match aller n'était pas l'Atalanta qu'on avait vu dans les matchs précédents, dans les matchs de Coupe d'Europe. Et là, on les a retrouvés. Donc l'un dans l'autre, il savait rien de surprenant que Marseille soit éliminé. Qui prennent de cette manière-là, oui, ça peut être surprenant. Mais au départ, on se disait, bon, Marseille n'a aucune chance contre l'Atalanta. C'était évident sur la valeur des équipes à cette période de la saison, dans ces conditions. Et on l'a dit, loin du Vélodrome, il faut que je fasse...
Non, allez-y. De toute façon, le choix, il est fait.
Les chiffres de Marseille à l'extérieur sont affolants. Je veux dire, c'est...
Voilà. Oui, j'ai regardé parce que c'est l'avant-dernière équipe en Ligue 1 au classement, mais à égalité avec la dernière équipe qui est Clermont, 11 points marqués donc à l'extérieur du Vélodrome.
Donc c'est pas surprenant.
On les sent en plus, les Marseillais, à bout de souffle, quoi.
Justement, là, il y a un débat. Vous avez dit qu'ils étaient à bout de souffle et Fred a dit que c'était de la nonchalance.
Non,
c'est-à-dire que vous, ils peuvent pas faire mieux.
C'est l'impression
vous...
qu'ils donnent. Ouais. Je dis pas que...
Non, mais...
Ce serait quand même plus qu'étonnant qu'en demi-finale de Coupe d'Europe, ils soient nonchalants. Mais j'ai trouvé, avec beaucoup d'attitude, j'ai pas... À défaut d'avoir une justesse technique qui était absente ce soir, à défaut d'être... Ils étaient totalement... Là, vu l'enjeu et vu, encore une fois, le contexte et le résultat et le contenu du match aller, on pouvait penser quand même qu'ils donneraient l'impression qu'ils se dépouillaient, qu'ils iraient comme des morts de faim sur tous les ballons, qu'il y aurait des attitudes plus conquérantes que ça.
Pour ça, ils ont été asphyxiés. Techniquement, il faut être juste. Et le nombre de ballons qu'ils ont perdus dans les phases de construction, je veux dire, le relais entre les milieux et les attaquants, ils ne l'ont jamais trouvé. Non. Ils n'ont jamais réussi à trouver Aubameyang. Je veux dire, ils ont perdu des ballons dans les deuxième, troisième passes. Je veux dire, ils ont eu une ou deux séquences en première mi-temps où ils ont réussi à remonter le ballon. Et le résultat, ils ont tout perdu. Donc, ils ne peuvent pas espérer.
On y reviendra sur l'habileté ou sur les limites de cet Olympique de Marseille, mais sur soit la nonchalance soit à bout de souffle. Je ne sais pas si vous avez retenu, alors c'est à la 30e minute, Lookman a marqué. Juste avant, il y a une occasion pour l'OM, un centre récupéré par le gardien. Le gardien va vite relancer sur De Roon, puis sur Kopmeiners, mais entre les deux, il y a un plan de coupe, comme on dit dans le jargon de la télé, sur Jonathan Clauss, qui est 30 minutes, qui est les bras sur les cuisses, qui est en nage et qui souffle.
Ouais.
Et derrière, il n'y a pas Clauss, mais il n'y a aucune réaction, aucun repositionnement de l'équipe. J'ai l'impression que là, pendant 30 minutes, ça a été un peu le fractionné. Puis ils avaient à peu près 20-30 minutes dans les jambes.
Moi, j'ai pas du tout trouvé de la nonchalance, quoi. C'est des joueurs qui sont physiquement complètement éprouvés. Vous voyez un joueur comme Bemba, qui pour le coup, si on devait choisir un meilleur joueur sur la saison, c'était le joueur de la saison marseillaise, qui a quand même joué blessé ces deux, trois dernières semaines. Ouais. Il est sorti très tôt, je crois, en début de deuxième mi-temps.
C'est l'un des premiers changements.
Ça devient tout de suite trop compliqué.
60e minute, sortie de Mbemba pour Unai.
J'ai du mal avec l'excuse de ils sont à bout de souffle, parce que le match aller, ils les font, les efforts. Alors on a beau dire que le Vélodrome, ça les pousse, ça les motive, mais ils sont capables de faire des choses. Et là, ce soir, on a l'impression qu'ils n'étaient pas conscients de discuter.
Sauf qu'au match aller, l'adversaire ne proposait pas la même
intensité. Oui, là, mais ils sont aussi étouffés par l'intensité de l'Atalanta. Mais là, ils ont eu en plus une semaine vraiment pleine pour récupérer, pour s'entraîner, parce qu'ils n'ont pas joué en championnat. Donc, ils devaient avoir de l'énergie pour un match comme celui-ci.
On va aller voir Candice Roland. Vu du stade, vous les avez trouvés comment? À bout de souffle ou nonchalant? Vous étiez sur place. Quelle impression vous a fait physiquement cet OM ce soir? Bonsoir, Candice.
On peut en sortir, mais ouais, effectivement, ils ont été dépassés tout simplement, les Marseillais. Physiquement, ils ont vite décliné, mais plus que de la nonchalance, moi, j'ai trouvé vite de la résignation. On n'a pas vu beaucoup forcément de rébellion dans cette équipe, avec beaucoup de déchets techniques, vous en avez parlé effectivement. Mais même après le deuxième but, il y a un joueur qui a dit « Allez, on y retourne quand même », c'est Balerdi. Les autres sont un peu regardés, Gigo a un peu parlé avec Loss pour quelques réglages, mais derrière, ça a manqué de réaction. Et à la fin du match surtout, après avoir salué les supporters marseillais qui avaient fait des ils sont tous rentrés tête basse, vraiment, ils regardaient leurs chaussures. Il y a même certains qui ont fini en larmes, comme Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, c'est une grosse déception, parce que justement dans l'envie, dans ce qu'ils avaient un peu promis, dans le combat, dans le duel, ils n'étaient absolument pas au rendez-vous.
S'appuyer également sur ce match aller, un match aller on va dire prometteur, mais ce match aller finalement ça a été un trompe-l'œil.
Juste les stats sont toujours intéressantes.
Quand laquelle on voit,
ouais. La dernière ligne, 17 fautes d'un côté pour ouais. l'Atalanta, 6 pour Marseille. On peut dire quoi ? C'est celle qui fait le plus de fautes, c'est qu'elle est en difficulté ? Mais pas dans ce cas-là. Je veux dire, Marseille n'a fait que 6 fautes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu les attraper. Et les autres, dans tous les moments, dès qu'ils étaient en difficulté, faute.
Pardon, mais
l'arbitre a été un peu complaisant souvent dans quelques fautes qu'il a laissé faire.
Monsieur Manzano.
Mais c'est. Je veux dire, c'est symptomatique.
La bonne agressivité qu'il faut mettre, là, quand on est des guerriers, l'agressivité que tu mets sur le terrain, ça veut dire aussi qu'elle n'était pas là. S'il faut,
c'est pas suffisant. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas les attraper.
Ouais, bah oui. Ouais.
C'est aussi ça, l'explication, c'est que ils n'ont jamais pu être au contact, ils ont jamais pu, parce qu'ils étaient en retard, parce que c'était trop court.
On a très souvent vu énormément de facilité dans les transmissions au milieu de terrain pour toucher les trois de devant aux 20 mètres. Qui pouvait prendre les ballons, d'ailleurs, dos au but, se retourner, orienter avec une facilité. Et c'est pour ça qu'il n'y avait même pas faute, parce qu'en fait, ils n'étaient pas sur eux. Ils étaient toujours dans les intervalles, sans aucune difficulté.
Moi, ce qui me surprend, c'est par rapport au match, sur la maîtrise de l'Atalanta, ça fait juste 46 de possession contre 54. Moi, je pensais que c'était vraiment l'Atalanta qui avait le contrôle. Mais qui a eu le contrôle, mais le contrôle en plus avec la balle.
C'est 54% de possession dans la moitié de terrain marseillaise.
Oui, ouais.
C'est stérile.
6 ballons touchés dans la surface adverse contre 33 pour l'Atalanta, ça vous...
Voilà, c'est clair.
Elle fait mal, celle-ci.
Ça peut faire 3 ou 4-0. Hein. Si l'Atalanta joue mieux certains coups, ils ont tellement de situations. Je crois qu'ils ont, cadré 5 tirs en première mi-temps, ils ont tiré 12 ou 13 fois au but. Ils prennent un bouillon pas possible avec le fameux pressing de Gasperini. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait encore, point de vue physique et point de vue disponibilité. Ils étouffent, ils sont toujours 3 sur le porteur quasiment. Ce qu'on avait moins vu, on l'avait vu 20 minutes au match aller. Et après, Marseille avait repris pied complètement. On a attendu ça et on l'a jamais vu.
Après moi, je suis un peu déçu de joueurs comme Aubame, comme Vertoux.
Faites pas l'inventaire encore, hein, parce qu'on l'a après. Mais ça, mais je sais que vous êtes toujours en avance, Damien, mais du calme.
C'est que je trouve que... Tu dis qu'il y a de la supériorité numérique. Moi, je trouve pas qu'il y ait eu tant de supériorité numérique que ça. Je trouve que c'est surtout beaucoup de duels qui ont été remportés par les joueurs de Bergame. Et que et dans les situations où des joueurs comme Aubame ou Harit étaient dos au but, ils ne résistaient pas. Ils ne résistaient pas au duel. Ils tombaient.
Damien, juste, mais quand même, quand l'Atalanta enclenche, est-ce que vous trouvez quand même que collectivement, il y a une idée commune ? C'est-à-dire que les attaquants ou les joueurs de l'Atalanta sont un peu plus connectés ?
Clairement.
Et l'OM, c'est toujours quand même un peu.
On le voit à l'arrache. On le voit sur le deuxième but. Hein. On le voit sur le deuxième but de l'Atalanta. Il y a une vraie connexion.
Mais ça, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est juste une question de duel, une question
de l'utilisation. Non, je n'ai pas dit que c'était juste une
connexion entre les.
C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que quand des joueurs qui sont supposés être un peu au-dessus dans l'effectif, et je les ai cités techniquement, ne sont pas capables déjà de conserver les ballons, de résister au duel, d'éliminer en un contre un. Ça devient tout de suite plus compliqué.
Entendu sur, ou lu même sur le site X, anciennement Twitter, je m'y fais pas, hashtag l'équipe foot. C'était à la pause. Certains disaient une chance d'être à 1-0 à la pause. Voilà, parce qu'il y avait 15-0 à la pause. On comptait aussi du côté des supporters marseillais sur la baisse physique des Italiens. Ils ne peuvent pas jouer 45 minutes comme ça, enfin 45 minutes en plus.
Et ils l'ont fait.
Merde. Ils l'ont fait. Il y avait trop de duels perdus par les attaquants de l'OM aussi. Trop de duels, trop de choses pour soit à la fois contrôler et aller provoquer, ou soit essayer de gêner la relance.
Soit les courses à contresens, où c'était soit un décrochage, le ballon était en profondeur, soit l'inverse. Ça a été un festival.
Et puis il n'y avait pas de milieu qui arrive à contrôler et à toucher les attaquants. Aussi peu que pas. Voilà, ça c'était la mi-temps, ça a été le match.
Et c'est le résumé de la saison. C'est-à-dire qu'on parlait d'Aubameyang. Est-ce que vous avez en tête une multitude de buts de l'OM cette saison qui sont sur des combinaisons, sur Aubameyang, en fait, il a passé sa saison seul devant.
Non, mais Philippe, moi, je vais vous opposer quelque chose. L'OM a quelque chose d'irrationnel en Coupe d'Europe. C'est une équipe moyenne. C'est une saison terrible.
On ne peut pas jouer que là-dessus. On a l'impression que c'est encore une fois...
Non, mais il y a toujours une piécette, quoi.
Oui, mais il y a toujours le Vélodrome a fait son travail.
Oh, c'est-à-dire ça peut pas être que le Vélodrome, qu'ils ont... t'arrives pas en demi-finale de Coupe d'Europe juste parce que le Vélodrome...
Gasperini, il a passé l'ensemble de sa conférence de presse d'hier à parler de ça. C'est-à-dire que manifestement, ils avaient beau être prévenus, ils ont été cueillis par l'ambiance du Vélodrome.
Et pas que ça.
En tout cas, eux ont estimé qu'ils avaient été extrêmement perturbés par l'ambiance du Vélodrome.
Bah, il avait fait quand même des vrais choix. Vous l'avez noté d'ailleurs dans votre super duel. Moi aussi, quand j'ai regardé la compo de départ de Gasperini, vous savez, c'est Gasperini. Hein.
Oui.
Il s'appelle Gasperini.
L'entraîneur.
Oui.
Oui.
Oui. D'accord.
Pourquoi ?
Je reviendrai dans quelques minutes. On a un petit truc sur vous. Je vous soigne, mon Raymond, je vous adore. J'avais noté Gasperini modifie son 11 de départ par match aller. De Rhône, qui était au milieu de terrain de capitaine, défense centrale. Hein qui remplace Kolasinac, qui était forfait. Gasperini veut de la vitesse. Et on l'a vu au début du match. Il y a une action que j'ai notée avec une sorte de 1 contre 1 à la 11e minute entre Pierre-Emerick Aubameyang contre Isaac Hein, ouais. Le remplaçant de Kolasinac. Ensuite, je me suis dit, bah, là, ce soir, Pierre-Emerick, au niveau de la vitesse, il ne va pas le prendre de vitesse. Hein. Ce n'est pas Jim City ou c'est pas... voilà.
Non.
Donc déjà,
non,
mais... il y avait cette correction-là. Et puis après, il y avait également les autres...
Ouais, Lokman titulaire.
Il y avait Lokman qui nous avait fait bonne impression déjà il y a une semaine.
Oui, voilà. Vrai, chaque fois, ouais.
Et on se dit que là, ça va être un peu...
Mais honnêtement, c'est je trouve que...
À
l'aller que l'OM perd sa qualif. Parce qu'ils ont quand même eu, les Marseillais, des occasions assez nettes.
Ouais, 42 minutes, voilà. Aubameyang.
Et notamment Aubameyang. Aubameyang est passé complètement à côté de ces deux demi-finales, très clairement.
Ouais. Mademoiselle Candice, je sentais que ça réagissait. Moi, la mauvaise impression déjà, c'était à la lecture de la compo de Gasperini, puis dès le début du match avec ce duel entre Hein et Aubameyang. Vous réagissez, vous n'êtes pas d'accord. Allons-y, on vous écoute.
Non, mais je voulais juste insister sur cette fameuse notion de vitesse. J'ai l'impression que vraiment tous les joueurs de Bergame allaient plus vite. On a vu des duels. Merlin était pris dans le dos, surtout aussi. Hein, j'ai été stupéfaite par cette prise de profondeur de la part de Bergame qui arrivait sur les côtés à vraiment à prendre le jeu dans le dos de Merlin, dans le dos de Klos également. Et sur tous les ballons, et bien parfois on a vu de Ketteler qui a pris de vitesse Klos alors qu'il était lui-même lancé, le Marseillais. Donc ils avaient vraiment quelque chose en plus aujourd'hui, les joueurs de Bergame à la maison. Certes, peut-être, mais les Marseillais semblaient vraiment, vraiment en deçà. Alors, physiquement, mentalement, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, mais c'est pas possible. Des fois, ils avaient deux pas d'avance et ils arrivaient quand même à se faire rattraper. Donc, la vitesse, elle était partout, sur tout le terrain côté Bergame, j'ai trouvé.
Beaucoup de réactions, soit ironiques, soit ou un constat sur le hashtag l'équipe foot. Ce soir, l'OM et Paris n'avaient pas joué ce week-end pour être frais. C'était le cadeau du conseil d'administration de la Ligue. Faire reposer nos équipes donc européennes, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Je traduis ça un petit peu comme ça pour relancer.
En tout cas.
C'est pas une mauvaise idée? Ce soir sur la fraîcheur et mardi sur la fraîcheur.
Oui, en tout cas, en quart pour les deux équipes, ça a été
des derniers. Oui.
Comment donc.
Ça avait fonctionné au tour précédent. Et c'est pas une mauvaise idée. Ça reste une idée qui est en tout cas louable et qui va dans le sens... au moins de la performance des clubs en question. Ils ne peuvent pas se réfugier derrière ça pour dire « on ne nous protège pas, on n'en a rien à faire, etc.
Ouais, » mais là, c'est
carrément... ça n'a pas joué, c'est clair que là...
C'était carrément l'inverse, puisque je rappelle quand même que l'Atalanta...
Ils ont joué lundi. La moitié de l'équipe qui est entrée sur le terrain.
Les
autres ont...
Il y avait 6 joueurs qui ont joué. Hein.
Mais voilà,
ils avaient moins fait tourner que Dortmund sur le...
Voilà. Ils ont quand même joué. Oui, ça c'est incontestable.
Donc fausse bonne idée.
Je veux dire, cette excuse, on peut dire pour Marseille, ça pouvait les aider. Mais Paris, c'est pas la dimension athlétique qui les a fait perdre.
Il y avait quand même des kilomètres en moins.
C'est la fatigue.
9 au match aller, 9 au match retour, quelque chose comme ça.
Ils ont fait.
En moins.
Oui, mais parce qu'ils jouent, ils veulent le ballon dans les pieds tous. Mmh. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, les courses, ce truc des...
Des kilomètres parcourus.
Des kilomètres, c'est un leurre. Mmh. Parce que...
Je m'y intéressais, moi.
Oui, parce qu'ils nous disent pas, des fois, quand on court, mais est-ce qu'on court avec le ballon ou est-ce qu'on court après le ballon? Donc déjà, ça, c'est une donnée qu'on n'a pas. Mmh. Et souvent, les équipes qui ont beaucoup couru, elles peuvent courir après le ballon. Et elles font les efforts pour défendre.
Ouais, mais après, c'est aussi découpé par poste, par joueur. Et tu vois...
Tu sais combien chaque
par exemple, tu sais qu'un attaquant en fonction, je sais par exemple sur certaines compétitions, l'UEFA découpe vachement, ou la FIFA, les courses à haute intensité, les courses à moyenne.
C'est
donc sur un attaquant, les courses à haute intensité, tu sais que c'est sur les appels.
Oui,
sur...
mais quand un attaquant fait une course à haute intensité, ça veut dire que le défenseur fait la même. Parce qu'il lui court après.
Ouais. Et oui. Bah, pas toujours. Des fois, il court pas après.
Oui, il peut pas.
Voilà. Donc tu sais. Donc,
bah, il sprint plus lentement.
Mais je veux dire, une équipe qui conserve le ballon comme le fait le PSG va forcément faire moins de courses à haute intensité qu'une équipe comme Dortmund qui, dès qu'il récupère le ballon, bah, ça accélère et ça court et ça plonge.
Donc c'est des stats comme ça, parce que moi j'avais fait mes calculs.
Des stats qui doivent être liés à la manière de jouer de l'équipe. Oui.
Les stats comme ça,
comparer. Comme ça, ça veut rien dire. J'aimerais bien voir celle de Marseille, parce que des sprints, ils ont dû en faire aussi. Hein.
Ouais.
Tiens, Merlin, sur son côté, il a couru après le mec.
Mais plus, moins vite.
Faire reposer nos équipes. Ah bah, Candice, on vous redonne la main, parce que vous n'avez pas totalement répondu à notre question, mais c'était une autre question. Candice, Roland.
Oui, c'était sur le physique dont vous parliez, justement, que les Marseillais et les Parisiens n'avaient pas joué ce week-end. Hier, en conférence de presse, justement, Gianpiero Gasperini disait que lui, alors, ils avaient joué effectivement lundi, il avait fait tourner quand même la moitié de son équipe, mais il disait, moi je sais pas si à ce moment de la saison, d'avoir une coupure comme ça, c'est bien, est-ce que c'est bien pour les faire reposer les joueurs, ou parfois j'ai déjà vu des joueurs qui ont eu justement à ce moment de la saison, eh bien, plusieurs jours de récupération, et au final, eh bien, le match, ils sont passés à côté. Et même lui ne savait pas, alors, peut-être un peu d'intox, mais en tout cas, il n'arrivait pas à répondre à cette question, est-ce que c'était bien de couper ou est-ce que c'était bien finalement d'enchaîner ?
Faire reposer nos équipes européennes, est-ce que c'est une fausse bonne idée, Raymond Domenech ? Je ne savais pas. Enfin, il n'y a pas de...
Et je dirais comme Gasperini. On ne sait pas. Je veux dire, ça peut être utile, ça peut ne pas être utile. La réaction de certains joueurs, ils ont besoin de repos, ils coupent à un moment difficile. Honnêtement, je ne peux pas répondre
à cette question. Ça ne peut pas leur faire de mal, en tout cas.
On peut faire tourner. Je veux dire, maintenant, le rythme de la compétition, je trouve qu'il est intéressant. On peut faire tourner. Il a commencé, il en sort 5. Et il fait des changements. Il peut sortir les 5 autres, qui vont faire qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure. C'est une séance d'entraînement. Mais ça garde le rythme du match et la pression. Il n'y a pas de retombée mentale.
Est-ce
qu'on pourra jamais quantifier, effectivement, c'est dans quelle mesure est-ce que... Parce que déjà qu'on a cette chape de plomb du foot français qui, quand on arrive dans un dernier carré, c'est suffisamment rare. Donc il y a cette peur de passer au travers, de dire encore une possibilité d'y aller et qu'on va pas pouvoir exploiter. Et donc le fait d'y réfléchir pendant 6 jours sans autre match, est-ce que ça vient pas rajouter un peu de... C'est difficile à savoir, ça, on ne le saura jamais, mais... Au final, on peut quand même faire le constat qu'on est le seul pays de foot à le faire. Parce qu'on a un déficit et qu'on veut le combler. Donc, est-ce que c'est une manière d'appuyer un peu plus sur le fait que mentalement, on n'y est
pas ? On n'est pas le seul, il y a les Grecs qui le font aussi. Et l'Olympiakos, ce soir, est qualifié pour une finale européenne.
Bon, bah, alors c'est une super bonne idée.
Bon, en fait, il faut passer, quoi. Pour que ce soit une bonne idée, il faut que ce soit validé. Mais non, ce qui est intéressant, c'est ce soir, la condition physique... Et le week-end dernier, ils n'avaient pas joué, donc ils devaient être plus frais. C'est ce qui interroge.
Surtout en termes de rythme. Est-ce que ça fait perdre du rythme de ne pas jouer une semaine vraiment ? Parce que c'est ça aussi.
On dit que c'est 11 jours, non ? 11 jours sans jouer ?
Oui, donc là, ils n'ont pas vraiment.
Raymond, le moment où le manque de temps de jeu commence à impacter, on va dire, le rythme d'une équipe, c'est à partir de quand ?
C'est très individuel. Ça peut être.
Merde.
Ben oui, chaque joueur.
Ah, je voulais une recette, moi.
Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer. Tous les 3-4 jours, ils sont bien. D'autres, il y a un moment, il faut les faire souffler.
Ouais, mais ils n'arrêtent pas de se plaindre de trop jouer. On joue trop. Alors là, ils ont une semaine. On va me dire qu'ils perdent du rythme et qu'ils ne sont pas capables d'enchaîner 2 matchs de Coupe d'Europe sur une semaine. Enfin, c'est très bizarre, quoi.
Il faut quand même pas oublier qu'on est repassé à 18.
À une élimination.
On n'a plus la Coupe de la Ligue et on est repassé à 18. Oui, oui. Donc, il y a aussi un aménagement du calendrier. Peut-être qu'effectivement, alors, pour ne pas avoir les terrains gelés, les trucs. Souvenez-vous, les mois de janvier, février, là, il n'y avait pas un match. C'était toutes les semaines entières sans match.
Léonard. Bon. Oh. Vous avez fini ?
Oui.
Si, j'ai coupé les ciseaux comme en radio, vous savez. Tac, comme ça, pardonnez-moi. Leonardo Balardi a réagi après cette élimination. Vous étiez là, Greg ?
C'était juste après le match chez nos confrères de Canal+. Regardez ce qu'il a déclaré. Je suis dégoûté, très triste. On doit faire mieux pour nos supporters. On a tout donné, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner plus pour aller en finale. Et puis sur le terrain, Aubameyang a lui quitté la pelouse en larmes complètement, le Marseillais.
Oui, Candice Roland nous l'a dit il y a quelques minutes de cela. Sur cette nonchalance, sur il pouvait mieux faire et tout ça, la saison n'a pas été terrible du côté de l'OM, mais l'état d'esprit de ces garçons, On peut pas en douter de ça, non ? Siani, c'est une question pour Fred et Siani, parce que vous étiez déçus par ce soir en disant ils peuvent mieux faire et tout ça. Mais sur l'état d'esprit, je vous branche là-dessus.
Après tout ce qu'ils ont traversé cette saison, c'est vrai, les crises dans le club, les mauvais résultats.
Changement d'entraîneur, le vrai faux départ du président.
Ouais, la crise avec les supporters, enfin, c'était un vaudeville cette année. Enfin, voilà. Et je trouve que l'équipe, finalement, faire une demi-finale de Coupe d'Europe, bah, c'est quand même. On va dire que c'est une grande saison, mais pour moi, ça la sauve un petit peu et ça montre que c'est une équipe qui a du caractère et que peut-être dans un contexte un peu plus serein, un peu plus calme, ils auraient pu espérer mieux déjà en Ligue 1. Et bon, après, je ne suis pas sûre qu'ils auraient été beaucoup plus loin face à l'Atalanta, mais voilà, je pense qu'ils peuvent peut-être avoir des regrets, comme Daniel disait, peut-être plus sur le match aller. Mais là, ce soir, il n'y a pas de regret à avoir. Enfin, je veux bien croire Balerdi quand il dit qu'ils ont tout donné.
Un climat calme et serein à Marseille. C'est
on a connu quand même moins agité que cette saison.
Mais c'est tout
quand même. Pas comme c'est une saison.
Non, mais qu'ils aient été ce soir asphyxiés par le pressing de l'Atalanta, oui. Ouais. Qu'ils aient eu encore beaucoup de limites techniques qu'ils ont affichées toute la saison, oui. Mais douter de leur état d'esprit ou de leur envie, non.
Non.
Ça donne l'impression, mais c'est une impression trompeuse. Ils peuvent pas.
D'ailleurs, Balerdi le dit.
Impossible.
Hein. On a tout donné.
Ouais. Oui, oui.
Mais ça n'a pas été suffisant. Ouais. Et derrière, il dit qu'il faut donner plus pour aller en finale. Voilà. S'il a tout donné, et il ne peut pas donner plus pour aller en finale. C'est pas possible.
C'est un problème de. Enfin, on peut faire tous les débats qu'on veut, c'est un problème de niveau de joueurs. Et clairement, les joueurs de l'Atalanta sont des meilleurs joueurs, quasiment sur toutes les lignes, que les joueurs, les joueurs marseillais.
L'effectif est mieux construit.
Quand vous voyez qu'à la 55e. Gasperini autour de la sort de ses quasiment ses deux meilleurs
Scamaca.
Attaquants
Scamaca
de Cattelaire et il fait rentrer et puis l'Ukrainien là ou le Russe
Mirantchuk
Mirantchuk je vous dis les deux entrants de l'Atalanta seraient sans doute titulaires à Marseille aujourd'hui.
Mais t'as raison hein, sur l'aller avec tout ce qu'ils ont donné, ils ont pas réussi à gagner le match aller l'OM. Donc c'est très très compliqué après au retour dans un contexte qui est moins favorable de performer. Ça, c'est
une action fait rager nos amis supporters de l'Olympique de Marseille sur le hashtag. Eh oui, c'est Liman Ndiaye. On la revoit, on est à la 50e minute. La passe de Klose, c'est quand même habile, bien. Le geste est bon. Qu'est-ce que Raymond, à vous de jouer. Généralement, je ne vous utilise pas dans le registre de la finition, mais ce soir, vous êtes le seul footeur.
Sur le lobe ?
Ouais, sur le lobe, à la 50e, qu'est-ce qui. Bah, il ne cadre pas. On va regarder les images. Est-ce que voilà, c'est parti. Il panique.
Total. Là, il a tout son temps, il regarde,
il ouvre pas son.
Un peu de maîtrise, voilà, il attend. Il a la tête baissée. Je veux dire, il ne prend pas l'info, alors qu'il a un mètre d'avance.
Ouais.
Je veux dire, ce que disait Damien, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème de niveau. C'est tout. Parce que là, n'importe quel attaquant d'un niveau, je veux dire, de demi-finale de Coupe d'Europe, juste un coup d'œil, il lève la tête, il met l'intérieur des pieds, il bute, et il n'y a pas de débat.
Ndiaye, il sait faire un lob, non ?
C'est quoi ?
Ndiaye, il sait faire un lob, là.
Oui.
La preuve que non, mais enfin, quand vous me dites que c'est le niveau.
Mais ça va faire un lob en demi-finale d'une Coupe d'Europe, quoi.
Avec la pression, dans cette situation-là, voilà, c'est pas. C'est pas à l'entraînement, il va le réussir.
Ouais.
Parce qu'il va prendre le temps, c'est pas grave. Mais là, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Et c'est autre chose. Mais on le voit, il a la tête baissée, il se précipite. Alors qu'il a tout son.
Il ouvre pas le pied.
Il peut tout faire. Il peut lober, il peut même encore la contrôler puis aller dribbler parce qu'il a un mètre d'avance sur le défenseur.
Il y a des supporters qui disent que c'est le tournant. C'est le tournant pour vous ?
Oui, parce que les occasions, après, ils n'en ont pas d'autres. Non, et ils prennent le deuxième quasiment.
Oui, à peu près dans la foulée.
Est-ce qu'ils n'en auraient pas repris un derrière ?
Oui, je ne sais pas. En tout cas, vous pensez que ça les fait douter, l'Atalanta, s'ils prennent ce but-là, ils peuvent mener 3-0, ça fait un partout. Ils sont à égalité sur son deuxième match. Si on s'amuse à refaire l'histoire, s'il y a un moment dans cette double confrontation où l'OM a vraiment une chance de raccrocher le wagon, c'est là. Après, c'est trop tard.
Franchement, tu. Déjà, dans le contenu du match, on sentait qu'ils étaient dépassés.
Bien sûr.
Parce qu'après, t'as le coup franc de Vertu, pareil, qui va s'écraser sur la barre. Bon, ça peut être un autre tournant aussi, tu vois, s'ils le prennent là aussi.
Non, parce qu'il y a déjà 2-0.
Mais c'est vrai que c'est un peu l'histoire de foot, des fois.
Et tu peux aller derrière aussi. Enfin, tu vois, avec des si.
C'est un peu irrationnel. Quand on voit sur l'autre demi-finale, je sais pas si on va en parler, mais.
On va en parler, évidemment.
Sur la première période, je veux dire, à chaque fois que je mettais un œil sur le match, je voyais Leverkusen en train de frapper et le gardien de la Roma en train de. Bon, et puis il a suffi qu'il y ait un pénalty pour la Roma et après le match il change. C'est l'histoire du foot.
On a les images. Ah, on va les passer. Donc, c'est l'Atalanta Bergame qui était menée 2-0 ce soir, hein, à domicile. Non, face
le Bayer
Leverkusen, j'ai dit.
L'Atalanta Bergame. Oh,
voilà. Ils vous ont hanté.
Bayer Leverkusen, j'adorais l'Atalanta, mais le Bayer Leverkusen, donc, qui était mené 2-0 sur sa pelouse par la Roma. Et puis finalement, bah, la série d'invincibilité continue pour l'Atalanta Bergame. Allez-y, Greg, expliquez-nous le match. Pour Leverkusen.
Ouais, ça a été vraiment un match de folie. Après 17 tirs pour le Bayer Leverkusen, c'est finalement la Roma qui ouvre le score avec ce penalty. Cette faute de Jonathan Tah sur Rasmund, c'est Paredes qui ouvre le score, ça fait 1-0. Et puis sur un corner à la 65e, une nouvelle fois, Olcek touche le ballon de le bout de la main. Paredes pour le 2-0, le doublé. La Roma arrache à ce moment-là une prolongation et puis sur un corner, sortie complètement manquée du gardien, le contre son camp de Mancini qui est surpris de la tête. Et puis, on l'a dit, une défaite du Bayer Leverkusen, ça n'arrive pas. Stanisic, le crochet, la frappe, 49e match d'affilée sans défaite, dont 40 victoires. Direction la finale donc pour le Bayer Leverkusen.
97e minute. Il y aura d'autres stades, Greg, dans quelques minutes, mais là, cette saison du Bayer Leverkusen donc, qui a gagné le championnat, qui est en finale de la Coupe d'Allemagne et... qui va aller en finale de la Ligue Europa, c'est formidable.
C'est paranormal. Et en plus, c'est le club en Allemagne qui était moqué depuis des années. Leverkusen en anglais, mais il y avait d'autres jeux de mots qui étaient effrayants par rapport à Leverkusen. C'était vraiment le club qui était moqué pour son côté « je laisse tout filer ouais. ». 2002, souvenez-vous, avec Michael Ballack et la grande équipe du Bayern qui peut faire le triplé, qui perd Unterharing, un match monstrueux, épouvantable, qui perd évidemment la fameuse volée de Zidane en finale à Glasgow. Et au-delà de ça, c'est une équipe qui est marquée par le destin depuis des décennies et qui, là, se met à c'est pas une fois, c'est pas cinq fois, plus de 10 fois, à aller arracher soit les 3 points en championnat, soit le nul...
en temps additionnel. Ce soir, c'est quand même incroyable.
Non, mais c'est phénoménal. Ouais. Parce que ça peut plus se comprendre parce que comme la Roma doit prendre des risques pour faire 3-1 et les emmener en prolongation.
Sauf que la tentation de bien de défendre, de se replier derrière pour pas justement prendre le but qui t'emmènerait en prolongation, bah elle n'existe pas.
Voilà, mais le but du 2-2 en l'occurrence, quoi. Il est en transition. Donc il y a quand même des espaces.
Ouais, mais avant ça, ils attaquaient à mort. Quoi. Oui.
Que le Bayer Leverkusen marque des buts dans le temps additionnel, bah, c'est une belle habitude. Cette saison, Kai.
Pas du tout une habitude, même Fred l'évoquait. Il a plus ou moins dit, c'est 14 buts dans le temps additionnel cette saison pour le Bayer Leverkusen. C'est stratosphérique. À chaque fois, ils sont allés arracher une victoire ou une prolongation, ou un match nul, pardon.
C'est la meilleure équipe d'Europe. C'est Magath qui disait ça. Félix Magath disait, le Bayer Leverkusen, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ouais. Mieux que City, tout ça, mais il avait donné une interview, je crois que c'était à Bild, et il disait, c'est la même. Ouais, non, bon. Non, mais vous les regardez jouer ou un peu, ou c'est plutôt des highlights? Non, vous
les avez joués. Je les ai regardés jouer, je les ai vus contre Dortmund, je les ai vus contre la
City. Le Real, enfin les gros écuries de la Ligue des Champions, c'est meilleur pour vous?
Je ne suis pas sûr qu'une confrontation City-Leverkusen n'aboutirait pas à la première défaite de Leverkusen. Maintenant, c'est toujours compliqué de parer comme ça. Il y a sur cette fin de saison, c'est génial, hein, il y a une énergie incroyable. Ils sont habités par une envie d'aller jusqu'au bout sans perdre un seul match. Et ils y arriveront sans doute, c'est les joueurs de Xabi Alonso. Mais on sent que des fois, par exemple, quand ils égalisent contre Leipzig, ils profitent aussi de certaines circonstances de jeu. Leur but égalisateur, je pense qu'il y a quand même une faute qui n'est pas signalée sur le gardien. Est-ce que c'est plus fort que City, plus fort que le Real? De toute façon, avant de savoir si on est plus fort que le Real, il faut déjà jouer contre le Real parce que c'est compliqué de savoir.
Non, mais ils ont une fraîcheur et un élan. Ils ont quelque chose un peu. Il y a eu des saisons comme ça où l'Ajax donnait un petit peu ce sentiment-là. C'est-à-dire que, évidemment, que si là, demain, ils devaient jouer une finale de Ligue des Champions contre le Real, peut-être qu'ils ne peseraient pas lourd parce qu'il y a tout le poids de ce qu'on connaît avec ces hautes altitudes.
C'est Stuttgart, c'est pas Leipzig.
Mais. En revanche, dans le jeu, dans la fraîcheur, dans ce qu'ils ont proposé tout au long de la saison, c'est peut-être l'équipe la plus attrayante, en tout cas. C'est peut-être l'équipe qui a le mieux joué. Et un garçon comme Wirtz, c'est peut-être le joueur. C'est évidemment qu'il n'aura pas le ballon d'or, Florian Wirtz.
Ah ouais?
Enfin, je dis ça. Allez savoir, parce l'euro. Que l'euro, il peut nous faire.
Un Wirtz en folie bon, à l'euro.
En tout cas, c'est le joueur qui m'a donné le plus de plaisir à regarder cette saison.
Le 25 mai, vous avez l'occasion, chers téléspectateurs de l'équipe du soir et de la chaîne L'Équipe, de voir le Bayer Leverkusen, c'est la finale de la Coupe d'Allemagne, contre une équipe de D2, Kaiserslautern.
On a les droits.
Merci
beaucoup. C'était de Djorkaeff.
Atalanta OM, quel Marseillais a été pour vous le plus décevant ce soir, habillage, j'ai raté mon match. Ah, il était où? Bah, il était à l'Atalanta, mais c'est pas fait remarquer. Damien, vous me dites qui celui?
Je vais dire Aubameyang.
Pierre-Emerick. Sally.
Zéro originalité, pareil. Aubameyang.
Pierre-Emerick, Aubameyang. Monsieur Verdi.
Klose.
Ah, Jean. Klose. Je s'en fous.
Klose aussi.
Klose aussi. Oh, bon, on peut se faire un petit.
Oui, hein, sont 2-2, c'est bien.
Bah ouais, voilà, ouais. D'ailleurs, on n'a pas le résultat du Super Duel du premier, mais vous inquiétez pas que la régie. On mettra ça enfin.
Ouais.
Vous pouvez lancer le petit jingle, Morimont, la petite moulinette.
Maman.
Damien, vous retrouvez avec Siani Dalma, deux membres de l'équipe font équipe. Qui commence? Ah, Damien ou Siani? Siani ou Dalma?
Vas-y, commence.
Je commence alors.
Alors, Pierre-Emerick, Aubameyang par Damien Degore, Philippe Sanfourche, Fred Verdier, qui commence?
Vas-y.
Elisman, là?
Allez.
Entendu.
C'est vous, Fredo?
Oui.
Ok. 30 secondes, hein?
Oui.
Hein, Fredo?
Oh,
ouais. Ok. Le Marseillais le plus décevant pour le team Degore d'Alma, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de cette Ligue Europa avec 10 buts. Pourquoi? On y va, Damien.
Sur une demi-finale de Coupe d'Europe, qui attend-on? Est-ce qu'on attend le latéral droit ou on attend l'avant-centre star de l'équipe? On attend forcément celui qui marque des buts. Et à l'aller, il avait déjà été décevant à mon sens parce qu'il avait raté une énorme occasion qui aurait pu changer le scénario de cette demi-finale. Et au retour, mais il a même pas eu à rater une occasion, il s'en est pas créé. Alors peut-être était-il un peu isolé, mais ça suffit pas. C'est trop court comme argument. Il doit faire plus, il aurait dû faire plus, il aurait dû gagner plus de duels, faire plus d'appels, il l'a pas.
Ok. Jonathan Klose par Frédéric Verdier.
Oui, parce que Aubame, pour qu'il ait des occasions, il faut qu'il ait des ballons. Il n'a pas eu de ballon, donc pour avoir des occasions, s'il avait raté trois occasions, d'accord. Mais là, Klose, lui, en revanche, il a eu le ballon, il l'a mal utilisé. Il a été souvent très imprécis, beaucoup de lacunes techniques. Physiquement aussi, j'ai trouvé limite bouilli. Sur l'un des deux buts de l'Atalanta, il est d'une passivité tout à fait étonnante. Lui, qui est international, il devait montrer l'exemple. Il fait partie des 3-4 joueurs qui pouvaient montrer l'exemple. Il ne l'a pas du tout montré. Et il a fait une prestation, vraiment, j'ai trouvé très en deçà de ce qu'il est capable de montrer, surtout à cet échelon.
Le plus décevant, c'est Pierre-Emerick Aubameyang par Siani Dalma.
Eh oui, je pense que s'il a fini le match en larmes, c'est aussi parce qu'il devait être déçu de ses deux performances à l'aller comme au retour. C'est le joueur marseillais qu'on attendait en Coupe d'Europe cette saison, parce que il a brillé, il est meilleur buteur avec 10 buts, effectivement. Voilà, c'est le joueur aussi qui devait apporter ce frisson. Et je pense qu'il avait aussi peut-être envie d'aller loin dans cette compétition et de la remporter avec l'OM. Donc on est forcément déçu d'une prestation comme ça où il n'a pas existé, où il a été fantomatique. Et c'était pas le Aubameyang de la Coupe d'Europe.
Ok, 29 secondes, 3 dixièmes. Jonathan Klose par Philippe Sanfourche.
Les deux joueurs ont été très, très décevants, mais moi je le trouve plus de circonstances atténuantes à Aubameyang, qui est totalement isolé, qui l'est depuis le début de saison, parce que pour moi, que ce soit Sarr ou Ndiaye, c'est milieu de tableau Ligue 1 tout au plus, donc pour les grandes joutes européennes, donc à chaque fois qu'il s'en sort, c'est quasiment tout seul. Là, en plus, c'est milieu de terrain, Kondogbia est en dessous de tout, donc il n'a pas eu un ballon. Et alors que Klose, pour toutes les raisons qui ont été exposées par Fred, il a physiquement, techniquement et dans l'intensité, il n'y était pas.
Ok, mes amis, je précipite tout ça dans quelques minutes. La suite, l'arbitrage de Raymond Domenech. Un point sur la conférence de presse. Je crois que Jean-Louis Gasset est sur le point d'arriver. On marque une petite pause. Le voici, Jean-Louis, juste après la conf, l'arbitrage, la suite de l'équipe du soir et du débrief et l'élimination de l'OM. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Ça agit du côté du X, hashtag équipe foot. Greg Noali, on dit que c'est le sosie de Pablo Longoria. Je ne sais pas si. Voilà, je ne sais pas.
Il y a un sosie. Ouais, elle s'explique du coup sur, sur le mercato.
Ouais, je ne sais pas. Damien, vous partagez voilà. Damien est d'accord avec X et Twitter, ce qui est forcément très rare. Pablo Noali, vous nous mettez juste les images. Bah, malheureusement, l'élimination de l'OM, c'est 3-0, hein, ça fait mal.
Oui, c'est 3-0, ça fait mal et ça a très mal commencé. Plus ou moins vers la demi-heure de jeu, Marseille va très vite se faire piéger. Contre-attaque pour Bergam, Lokman côté gauche, la frappe est parfaite, ça fait 1-0, c'est légèrement dévié par Gigot. L'Atalanta fait un premier pas vers la finale. 52e minute de jeu, Ruggeri, le 1-2 avec Lokman, la frappe est parfaite pour le défenseur, pleine lucarne, ça fait 2-0, les Marseillais prennent un coup sur la tête dès le retour des vestiaires. Et puis à la 94e, Kondogbia va se manquer complètement, El Bilal Touré pour le 3-0, le récital des Italiens. l'OM est éliminé sans avoir existé véritablement dans cette demi-finale.
Dans quelques secondes, on va aller se rendre à la conférence de presse de Jean-Luc Gasset. On avait un super duel à trancher qui a été le Marseillais le plus décevant ce soir. Dans votre ville-peuple, il y a eu deux noms qui ont été proposés. À gauche, Pierre-Emerick Aubameyang. À droite, Jonathan Clauss. Par rapport à ces choix, pour vous, qui vous a le plus déçu? Pierre-Emerick ou Jonathan? Par rapport, et puis après, j'irai vous voir pour personnellement. Ouais.
Moi, je dirais Clauss. Parce que déjà, on l'a vu, on l'a revu encore sur le deuxième but qui scelle le sort du match. Mm-hmm. C'est lui qui dort, on le voit. Il y a le latéral gauche qui marque, là, fait le 2. Et lui, il regarde, il dit, tiens, il va y aller ou il ne va pas y aller? Ah, mais il y est allé, trop tard. Mm-hmm. Je lui dis, c'est pas un défenseur. Il ne réagit pas comme ça, un défenseur. Il doit lui couper la course. Sur le 1-2, il doit le bloquer, lui couper la course et c'est fini. Et le côté pour Aubameyang, oui, c'est vrai qu'on l'attend. Mmh. Mais dans ce contexte, avec les ballons dans ces conditions-là, bon, il est décevant, mais pas plus décevant que celui qui était derrière. Et celui, pour moi, qui scelle le sort du match, c'est ce deuxième but. Mmh. Et ce deuxième but, c'est pour Clauss.
Ok, on va tout de suite aller en conférence de presse qui a commencé depuis quelques minutes. Mais on va commencer par le commencement, hein, avec l'arrivée de Jean-Luc Gasset. On y va.
Jean-Louis, comment vous expliquez le non-match qu'a fait votre équipe ce soir? Est-ce qu'il y avait une trop grosse différence avec l'Atalanta ou c'est autre chose?
C'est inexplicable. C'est inexplicable de passer d'une semaine à l'autre, rivaliser avec une bonne équipe et aujourd'hui, pour se qualifier pour une finale, être battu dans l'agressivité, dans tous les duels, c'est l'image de la saison. Voilà.
Ouais.
On n'avait pas confiance, mais un peu d'espoir par rapport au match aller. Mais on est retombé dans nos travers et à chaud comme ça, quand on voit les matchs européens qu'on a fait à l'extérieur, on était un peu dans la même léthargie. C'est incompréhensible.
Candice. Bonsoir Henri. Est-ce que vous avez été déçu par certains de vos cadres?
Non, c'est pas individualiser les choses. C'est un groupe qui avec qui on vit depuis 2 mois et qui a fait souvent très bien au Vélodrome et pas bien à l'extérieur. Et ça va être l'image de cette saison. Il y a un manque de prise de conscience, de personnalité qui fait qu'il n'y a que le Vélodrome qui les transcende.
Oui.
Bonsoir coach.
Bonsoir.
La déception est immense ce soir pour tout le monde, mais il reste 3 matchs encore pour sauver ce qui peut l'être cette saison. Est-ce que vous pensez que ça va être possible de se relever, puisque jusqu'ici c'est la Coupe d'Europe qui a tiré le club et l'équipe dans cette deuxième partie de saison, et là il n'y a plus la Coupe d'Europe, donc est-ce que vous pensez que l'OM va pouvoir s'en relever avec les 3 matchs qui restent en championnat?
Déjà on n'oubliera pas le parcours, d'accord, parce que on a vécu des soirées magnifique au Vélodrome. Et au niveau du championnat, l'OM se doit de terminer européen l'année prochaine. Donc il reste 3 matchs. Il faut vite se remettre au travail, remettre les têtes à l'endroit, savoir qu'à l'extérieur c'est insuffisant, qu'on n'arrive pas à se mettre à la hauteur de l'événement. Et c'est ce qui est dommageable pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, mais il faut faire l'union sacrée, tout le monde, pour que Marseille finisse européen.
Oui.
Bonsoir, est-ce que vous avez été surpris par les choix de Gasperini? C'était pas du tout la compo annoncée, rien n'avait filtré en Italie ce 3-4-3.
Joueur prêt, c'était celle qui était prévue. C'est pas,
c'est pas le schéma offensif de l'adversaire qui nous a mis en difficulté. Quand vous êtes battu dans tous les duels, vous récupérez jamais un ballon. C'est pas parce qu'il joue en 3-4-3 ou 3-5-2. Non. Non, non, c'est l'envie, c'est le combat, c'est les duels, c'est ce que j'avais dit avant le match. Bien sûr que j'avais un espoir en ayant vu le match du jeudi dernier parce qu'on s'était ici à leur niveau et qu'on aurait peut-être mérité un but d'avance. Et je pensais qu'on était capable de réitérer cette prestation. Malheureusement, comme souvent en Coupe d'Europe à l'extérieur, ça a été insuffisant.
Bruno.
Oui, coach, bonsoir. Est-ce que, vous venez d'en parler, vous avez très bien analysé tout ça, est-ce qu'on peut dire ou pas que la marche était au final trop haute pour l'OM, malgré le beau parcours jusque-là? Voilà.
Quand on voit le match aller, on dit il y a la place. Quand on voit le match retour, on se dit, ce soir, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Même si on a la balle de 1-1 qui peut renverser le match. Parce que j'aurais bien aimé voir égaliser. À l'aller, ils avaient baissé le pied un peu physiquement au bout d'une heure. Et là, on était pratiquement à 55 minutes de jeu. C'est tout ce qui fait la différence. Quand eux, ils se présentent, ils sont un contre le gardien, ils ne vous laissent aucune chance. Aucune chance.
Mourad.
Oui, bonsoir coach. Vous nous aviez dit avant le match tout le bien que vous pensiez de Gasperini, du projet qui était ici. On a l'impression aussi que les joueurs de l'Atalanta étaient plus sereins dans leur tête, qu'ils avaient plus l'habitude. Est-ce que c'est aussi la défaite du projet de l'OM contre celui de l'Atalanta qui est construit depuis 8 ans de manière très stable?
La régularité dans le football fait que ce club travaille bien, cet entraîneur est là, il a construit un groupe à son image. Il fait jouer d'une manière très agressive, mais il a beaucoup de bons joueurs. Je pense que l'Atalanta travaille bien. Oui.
Merci.
Merci beaucoup.
Et la con vient de se terminer de Jean-Louis Gasset. On a manqué d'agressivité, on a manqué tous nos duels. On est retombé dans nos travers. Et finalement, c'est une synthèse de la saison de l'OM. C'est le syndrome des matchs à l'extérieur. Et ce qu'il a beaucoup évoqué ce soir, c'est la faillite dans le combat. Donc la faillite dans le combat pour gagner les matchs à l'extérieur, c'est ça. Voilà, s'ils sont avant-derniers du championnat en Ligue 1, s'ils ne réussissent pas, c'est le combat. Bah j'ai à peu près fait la synthèse de ce que j'ai entendu. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette synthèse-là?
Après, il ne peut pas non plus dire que ces joueurs sont moins bons que ceux d'en face, techniquement moins bons.
Il a laissé entendre.
À la fin, il dit
un peu. Il ne peut pas le dire aussi.
Bah, il a trois matchs pour qualifier l'OM en Coupe d'Europe.
Moi, quand je vous parlais tout à l'heure des duels qui n'étaient pas remportés par les attaquants, notamment en première mi-temps, ça m'a... Il se faisait bousculer, bouger dans des grandes largeurs, quoi. Il tenait pas debout et incapable de garder un ballon de haut but.
Mais quand il y avait des duels, parce que moi aussi, il y a plein de fois où il n'y a pas de duel, parce que les mecs sont trop rapides, sont trop décalés, à l'image d'ailleurs du premier but, de la situation de 1 contre 1 sur la remontée de balle de Rhône et de Copagna.
Enfin, des fois, il n'y avait même pas. Oui, si, il y a quand même eu des combats avec, oui. Entre Aubame et le défenseur suédois, Hein. Obama s'est fait bouger. Vous dites qu'il n'a pas eu de ballon, mais non, il en a peut-être pas eu, mais il est peut-être aussi un peu responsable du fait de ne pas avoir eu de ballon.
Vous revenez sur Otsio Pérez.
Harit, c'est pareil.
Ça ne m'a pas vaincu.
À l'aller, j'avais trouvé que la défense centrale de l'OM, par exemple, avait été beaucoup plus agressive sur Scamacca. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus à l'aise ce soir, qu'elle a pu faire ce qu'il voulait.
Mais Scamacca, même déjà à l'aller,
il y avait eu plus de répondants, notamment de Mbamba. Et puis Claude, sur le but, on parle de combat, mais il est trop passif sur le deuxième but. Et pour le coup, il manque d'agressivité, il manque de tout. Enfin, il n'essaye même pas de gêner le...
Après Claude, c'est vrai. Pour le coup, Claude, je suis d'accord, même sur le premier but. Si sur le premier but, il fait l'effort de revenir, il n'y a pas une situation de 1 contre 1, c'est plus un 2 contre 1.
Il y a plein de petites attitudes qui sont quand même un peu gênantes. Puisque
Si, encore une fois, il n'y a pas que cet ingrédient-là, mais si, à défaut d'être technique, à défaut d'avoir un collectif huilé, à défaut d'avoir une confiance incroyable qui est née d'une saison remarquable, s'il n'y a pas l'ingrédient du combat, s'il n'y a pas l'ingrédient de chien qui se bat, qui se dépouille sur tous les ballons, ce qu'on n'a pas tellement vu ce soir, et ce que Jean-Louis Gasset nous confirme lui-même...
Il dit qu'il manque de personnalité.
Voilà. C'est quand même un entraîneur qui protège ses joueurs en général, qui les charge très rarement en public. Là, ce qu'il envoie quand même à ses joueurs comme message, bon, il est quand même assez impitoyable. Ça montre bien qu'il y a un problème.
C'est clair ce soir. Ce que Benoît disait, je veux dire, une équipe qui gagne pas, qui perd plus de 20 matchs à l'extérieur, je veux dire, c'est la solidité défensive. Et la solidité défensive, c'est pas que de l'organisation, c'est du combat. C'est comment on est capable de s'accrocher, de défendre. On le disait tout à l'heure, on l'a vu avec le nombre de fautes. Les Italiens, ils ont fait 17 fautes. Marseille, ils en ont fait 6. C'est qu'à un moment, ils sont pas allés à la bataille, ils sont pas allés au combat.
Bilan de cette première heure de direct dans l'équipe du soir. Philippe Sanfourche est injouable. Philippe Sanfourche, ce soir, c'est l'Atalanta Bergame. Et puis, il y a un petit peu des Marseillais côté Stanis, côté...
Qu'est-ce qu'on a pris?
Les notes de l'équipe du soir dans quelques minutes. Quel joueur de Marseille était le plus décevant? Klos ou Pierre-Emerick Aubameyang? Mais vous en avez peut-être vu d'autres, peut-être. Kondogbia, oui. Pourquoi pas? Oula. Je sais pas. Allez, à tout de suite. Le Minuit Info est déclenché par donc le sosie de Pablo Longoria, c'est donc officiel, Grégoire Noël. Grégoire, juste avant de dérouler, on revient à Bergame parce qu'il y a une petite image volée par Nicolas Chébriand et vous vouliez nous la montrer. Allons-y, Greg.
Ouais, c'est sûrement assez rare en conférence de presse, la fin de la conférence de presse de Gasperini, le coach de l'Atalanta. Et puis regardez, il va être remercié presque un par un par des journalistes jusqu'à même une accolade, donc serrage de main, accolade. Pour Gasperini, à la fin de la conférence de presse, remercié donc par son assemblée de journalistes.
Vous avez déjà pris un entraîneur comme ça dans vos petits bras musclés, mon cher Damien, comme
non.
ça Non, non, jamais, non, non, voilà. Raymond, un journaliste, non, comme ça ou, non, pas comme ça. Mais John Piero Gasperini, c'est une sacrée histoire, Raymond. Ça me rappelle mes jeunes années. Il y a 4 ans de ça, c'était le Final 8.
Final 8 à Lisbonne.
À Lisbonne, je vous en... Et vous en souvenez, mon cher Damien, il y avait un tweet, parce qu'il tweet notre président.
Ça a fait du bruit. Hein.
C'est pas ça a fait beaucoup de bruit.
Je crois qu'on m'avait volé mon téléphone.
Non, attendez. Vous aviez... donc l'Atalanta se fait sortir par le Paris Saint-Germain et vous mettez une petite quiche à Gian Piero Gasparini. Gasparini, vous l'aviez... vous aviez écorché, enfin vous avez fait une faute d'orthographe à son nom. Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini, Raymond, pour ces changements de fin de match. C'est vrai qu'il avait fait sortir son petit Argentin sur le côté. Ça, on s'en souvient. Papu Gomez.
En tous les cas,
comme quoi, la légende des entraîneurs italiens, grand tacticien sur ce match, reste une légende. Turel a eu plus de réussite.
Mais notez bien.
On note surtout qu'il y a un petit problème d'accord.
Sur Gasparini. Sur Gasparini.
Hein
bon.
Gasparini.
C'est le correcteur.
Ah, c'est le correcteur.
Mais je maintiens que ces changements nous ont bien arrangés.
Ah oui. Ah.
Complètement. Ah oui. Et là, on ne peut pas dire le contraire.
Oui.
Et que, il y a des entraîneurs, des fois, qui réussissent, d'autres qui réussissent moins.
Mmh. Et bon, toujours à un moment, il a progressé en 4 ans.
Non.
Pour les entraîneurs italiens.
Ils ont, il y en a, et ce qu'il a prouvé là sur ces.
Qu'il avait progressé sur ces 4 dernières saisons.
À la lecture de ce tweet, d'ailleurs, il s'est remis en question.
Il a fait combien
Il a su se remettre en cause.
Ah bah, Atalanta, c'est le Giroud de l'Atalanta.
Il en est à la combien? Voilà. À la 8e année, je crois.
Oui.
Il a la 8e année. Ce qui veut, c'est une belle conclusion.
Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout.
Quand on laisse travailler des entraîneurs, ils arrivent à construire quelque chose. Lui, il a eu le temps de construire et de faire. Ça l'a pas empêché de faire des erreurs à des moments ou à un autre. Bon, et on lui a pas coupé la tête parce que il s'est fait battre contre le PSG à ce moment-là en faisant tactiquement.
En même temps, l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions.
C'était jamais arrivé
avant. C'est déjà un bel exploit pour un club de la dimension de l'Atalanta.
C'est bien, mais je veux dire, c'est sa durée qui permet que maintenant il arrive là et qu'il ait réussi à construire quelque chose. Et je dis bravo aux dirigeants de l'Atalanta d'avoir cette persévérance et d'avoir su garder un entraîneur compétent.
Voilà, Gasperini. Gian Piero. Voilà, c'était le correcteur orthographe. Le 22 mai prochain, donc, du côté de Dublin, la finale de la Ligue Europa opposera Bergame. Les images un petit peu plus tard, parce qu'on va revenir sur l'OM avec les notes de l'équipe du soir. Je vous encourage à venir sur le site L'Équipe, qui affrontera le Bayer Leverkusen, tombeur de la Roma, toujours invaincu.
Ouais, un match vraiment incroyable entre le Bayer Leverkusen et la Roma. Pourtant, Bayer Leverkusen avait tout essayé, 17 tirs, et c'est finalement la Roma qui ouvre le score avec cette faute de Jonathan Tah sur Asmund. Penalty donc pour les Romains, Paredes, Penax, 1-0 pour la Roma. Donc 65e, le corner de la Roma, une nouvelle main cette fois-ci pour les hommes de De Rossi, le penalty et le 2-0 signé Paredes, l'ancien parisien, s'offre un doublé. Et puis le corner de Leverkusen, la sortie complètement manquée du gardien, Mancini contre son camp, de la tête il est complètement surpris, et puis une défaite de Leverkusen, ça n'existe pas. Alors Stanisic, le crochet, la frappe, ça fait deux partout, 49e match d'affilée sans défaite, donc 40 victoires cette saison, c'est donc bien Leverkusen qui rejoint l'Atalanta en finale.
Là, ouais, le 22 mai prochain, c'est la finale de la Ligue Europa. La C4, la finale de la Ligue Europa conférence, ce sera à Athènes, dans le stade de l'AEK. Il y aura un autre club italien qui s'est qualifié hier, hein, c'est la Fiorentina, face aux Grecs de l'Olympiakos.
C'est ça. Ils avaient déjà gagné 4-2 à l'aller, l'Olympiakos, face à Aston Villa. 11e minute de jeu, les Grecs vont se montrer évidemment les plus dangereux dès le début du match. Podence fixe et Decalchini, le centre au second poteau. El Khabi ouvre le score, il était auteur déjà d'un triplé au match aller, il est en très très grande forme. Et puis il va continuer puisqu'à 10 minutes de la fin, Pau Torres est pris dans son dos, El Khabi file au seul au but. Ça fait 2-0, regardez, c'est même une passe décisive du gardien. 5 buts en 2 matchs face à Aston Villa. Les Grecs rejoignent donc la Fiorentina en finale de Ligue Europa Conférence.
El Khabi, c'est monstrueux de voir un club grec en finale européenne.
Et El Khabi qui a un destin exceptionnel. C'est un joueur qui n'a pas été formé dans un centre de formation, qui est un joueur de rue, c'est ça, hein? Vous avez fait une petite enquête sur lui, il était charpentier?
C'est ça, ah, charpentier, c'est ça, à Casablanca.
Charpentier à Casablanca, qui ça s'est distingué dans un tournoi de jeunes, comme ça, un tournoi amateur. Voilà. Et il a signé son premier contrat pro, je crois, après ses 20 ans, il me semble, Al Khabi, voilà, qui se retrouve donc en finale de la Ligue Europa Conférence. Aurélien Tchouaméni, blessé hier face au Bayern, égale Euro. Un peu incertain.
Ouais, il avait tout donné sur le terrain hier face au Bayern. Il était d'ailleurs sorti blessé. Il traîne une douleur au pied depuis plusieurs matchs. Et lors de jeu, il a dû quitter donc ses partenaires. Il serait indisponible pour une durée de 3 à 4 semaines selon les informations de notre journaliste Vincent Duluc. Sa participation à la finale de la Ligue des Champions le 1er juin face à Dortmund est plus qu'incertaine. Au Real, on souligne qu'il pourrait quand même être dans le groupe, probablement pas titulaire. Et sa présence à l'Euro qui débute le 14 juin pourrait être là aussi incertaine. Mais toujours, selon les petites précisions de Vincent Duluc, Didier Deschamps pourrait tout de même le sélectionner, même s'il est blessé vu que la liste est élargie.
Des blessés, des joueurs en méforme. Faut-il toujours classer les Bleus parmi les favoris de l'Euro? On en parle. Et ça, un petit peu plus tard. Ligue 1 toujours, rayon blessure encore, fin de saison pour le Brestois, Pierre Lesmelou.
Ouais, fracture du tibia péroné pour le milieu de terrain. La fin de saison a été actée aujourd'hui par Eric Croisson, coach en conférence de presse. T'es blessé face à Nantes, Pierre Lesmelou va se faire opérer dans la semaine. Gros coup dur donc pour les Brestois. Perdre un joueur majeur à 2 journées seulement de la fin de la saison. On le rappelle, Brest est 3e de Ligue 1 et vise toujours une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
Encore une défaite, c'était à l'extérieur de l'Olympique de Marseille. Oui, ce sont des archives. Mbappé au JO, déclaration aujourd'hui d'Emmanuel Macron, le président de la République.
Oui, il a évoqué, c'était à l'occasion du début du relais de la flamme, et Emmanuel Macron a déclaré avoir travaillé à rendre possible une présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Regardez ce qu'il a déclaré. J'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club, mais c'est toujours pareil, un match après l'autre. On a d'abord l'Euro de foot et donc le 14 juillet. Ils doivent gagner.
Vous le voulez, Kylian Mbappé au JO? En ce moment-là, non. Parce qu'on a fait pas mal de débats, ça a traversé l'émission de l'équipe du soir. Mbappé au JO, là. Après l'Euro, les JO. Qu'est-ce qu'on fait avec Mbappé?
Bah, c'est pas nous qui décidons.
Déjà. Non, mais d'accord.
Mais... Non, mais Emmanuel Macron peut mettre toute la pression qu'il veut sur le Real Madrid. Je pense que les enjeux économiques sont tels, avec une tournée en plus aux États-Unis début août du Real.
Très rémunératrice.
Très rémunératrice. Donc si le Real s'y présente sans l'une de ses stars, bon.
Ouais, mais là, la petite musique que je vous servais en disant Mbappé au JO, ça serait sympa et tout ça, les gens disaient bah oui, pour les Jeux. Pour
mais dans quelle, enfin c'est toujours ça. Pareil, dans quelle équipe, au sein de quelle équipe, parce que. Je suis pas certain que le Real soit le seul club à bloquer des joueurs à l'étranger. En France, les clubs sont
les Allemands risquent de le faire aussi.
Bah voilà, les Anglais, je vois pas pourquoi ils le feraient pas.
Oui, mais après pour nous c'était différent, c'est parce que c'est en France, c'est parce qu'il y a cette volonté aussi de remporter les Jeux. Les autres ils ont moins cette pression. Moi, ce truc, ça me rappelle un peu Neymar quand les Jeux avaient eu lieu au Brésil et qu'il y avait voilà cette envie que le Brésil remporte la compétition. Neymar l'avait faite, donc
oui,
c'était plus dans cette symbolique là qu'on a envie de voir Mbappé
disputer les Jeux Olympiques et être un petit peu moins ridicule que lors des derniers Jeux à Tokyo où l'équipe de France, franchement, était vraiment passée pour... c'était ridiculisé parce que les clubs n'avaient pas libéré les joueurs et qu'on a été très mauvais. Là. À domicile, on ne peut pas avoir une équipe de France comme ça.
Non, mais n'importe comment, ce n'est pas Mbappé qui décide. Enfin, si je...
Oui, mais après, c'était
je
pas...
Je sais comment ça fonctionne, c'est d'abord Thierry Henry. C'est d'abord lui qui va choisir son équipe. Oui, à la
tu
base.
Je pense que s'il a le choix, qu'il peut le prendre, il le laissera à la maison.
S'il a le choix, c'est après l'euro. Je veux dire, lui, il peut réfléchir autrement. Il va se dire, attends, il y a l'euro. Il y a cette problématique-là d'avoir quelqu'un. On ne sait pas dans quel état il va se retrouver. Ils n'ont pas 26 joueurs pour les Jeux Olympiques comme ils ont pour l'euro.
18.
Donc les choix qu'il va faire, il faut que ce soit des choix sûrs pour lui. Il ne peut pas se permettre...
Est-ce qu'il aura vraiment le choix aussi ? Est-ce que les clubs vont jouer le jeu ?
Ah non, pour le moment, il n'y a aucune certitude. Voilà,
d'accord, surtout, Romain, mais Mbappé, c'est un cas à part. On a bien vu depuis plusieurs mois... que la politique pouvait prendre le dessus sur le sport dans ce cas-là.
Non, parce que ce n'est pas en France. Ce que disait Damien, c'est pas... le président de la République française pense qu'il a un poids sur le président du Real...
Non, je ne parle pas de ça.
Il se trompe.
Imaginons par exemple que dans un monde idéal pour lui, il en est un, qu'il parvienne à ses fins. Qu'il passe un coup de fil à Philippe Diallo, à la fédération, en disant « bon bah voilà, c'est OK ». Kylian Mbappé va pouvoir disputer les JO avec l'équipe de France.
Parce qu'il aura eu un accord.
Est-ce qu'à ce moment-là, Thierry Henry va dire « Bah oui, mais moi, j'ai que 18 joueurs, je ne suis pas sûr qu'il sera en forme, donc je ne vais pas le prendre. » Je ne pense pas.
Oui, mais là,
Dès lors qu'il est disponible, s'il laisse, qui est une...
Voilà, tu pars sur une
chance infime,
qui est impossible.
Mais si elle existe, il est bien évident que rien ne s'opposera sportivement à ce que Kylian Mbappé soit là.
États-Unis, Nouvelle-Zélande, on connaît le dernier adversaire des Bleuets de Thierry Henry pour les JO, ce sera la Guinée. États-Unis, Guinée et Nouvelle-Zélande, puisque la Guinée s'est qualifiée aujourd'hui. Emmanuel Macron, bis repetita, précise l'objectif, Grégoire, pour ces JO. Le nombre de médailles, c'est du passé.
Ouais, effectivement, le mois dernier, Emmanuel Macron il nous annonçait que l'objectif était comptable, c'était le top 5 et 50 médailles. Aujourd'hui, ça a un peu changé, il a affiné ça. Là aussi, à Marseille tout à l'heure, on a affiné l'objectif. Maintenant, c'est le top 5. On n'a plus d'objectif chiffré. On vise le top 5 parce que c'est tout simplement du relatif.
Vous avez cherché à quoi correspondait ce top 5 ? Ça vaut quoi un top 5 par rapport, on va dire, aux anciens Jeux Olympiques ?
On s'est fié tout d'abord aux JO de Tokyo, donc c'était en 2020. Ça fait environ 20 médailles d'or pour accrocher ce top 5. La Russie, à l'époque, avait terminé 5e avec 20 champions olympiques. Puis la France, un petit chiffre, s'est classée dans ce top 5 qu'une seule fois de son histoire. C'était aux Jeux d'Atlanta en 96.
Ok. Entrée en lice gagnante pour Rafael Nadal à Rome.
Ouais, une victoire dans la douleur pour Rafa. Un succès en 3-7, 4-6, 6-3, 6-4 face au Belge Jesús Bergs. Après 2h53 de jeu, premier set compliqué pour l'Espagnol qui a clairement manqué de régularité dans ses coups avec notamment 16 fautes directes. Du mieux ensuite, l'ancien numéro 1 mondial emballe le match et renverse le Belge grâce à son coup droit. Direction le deuxième tour pour Nadal où il affrontera le numéro 9 mondial, Hubert Hurkacz.
Ouais. Fred, ça va mieux ou ça va moins mal ? C'est moins pire qu'avant ?
Imaginez Nadal galérer comme ça sur terre battue contre Jesús Bergs. Je ne pensais pas que j'irais assez vieux pour voir ça.
Ouais.
Donc honnêtement... Je l'ai vu servir à 190, c'est déjà mieux que...
Que les 140 et
oui,
les semaines précédentes.
Quelques semaines, il y a quand même du progrès. Mais pareil, un 7 à 16 fautes directes, moi, honnêtement, j'ai vu faire des matchs entiers à beaucoup moins que 16 fautes directes, parfois même à 5-7. En tout cas, en 3-7 gagnants. Donc là, honnêtement, il y a encore énormément de marches à gravir. Le seul truc positif, c'est qu'il fait quand même pas mal de bagarres, de gros combats, il se blesse pas. Et il n'est pas forfait derrière. Donc, vous voyez ?
Ok. Toujours vivant. Toujours
il joue qui au prochain tour ?
Hurkacz.
Hubert Hurkacz. Donc, méfiance quand même.
Oui.
Côté français, début réussi pour Corentin Moutet.
Ouais, un succès en 3-7 pour le français qui a profité de nombreuses interruptions, notamment de la pluie, pour battre Safioline au premier tour. 3-6, 7-6, 6-2. Le français a fait toute la différence dans le troisième set où il a rapidement mené 3 jeux à 0. Au deuxième tour, il affrontera un adversaire costaud, Novak Djokovic. Le français avait perdu lors de leur unique affrontement. C'était au Masters 1000 de Paris-Bercy en 2019. Le dernier point pour Corentin Moutet qui s'est baladé dans la salle.
Oui, qu'il en profite, quoi. Sur le Giro, sixième étape, Julien Alaphilippe a frôlé sa première victoire de la saison. Frôlé, seulement.
Ouais, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour Julien Alaphilippe. Il est finalement devancé dans les derniers mètres par l'Espagnol Pelayo Sanchez, parti dans une échappée à 85 km de l'arrivée.
Il n'a pas mis malheureusement fin à sa disette de 339 jours sans victoire. Une deuxième place un peu frustrante, mais encourageante pour lui. C'est lui qui l'a déclaré. De son côté, Tadej Pogacar est resté un peu plus en retrait et conserve le maillot rose. Demain, les coureurs ont rendez-vous avec un contre-la-montre de 40 km.
Ok, donc victoire de Pogacar devant Thomas. La deuxième étape du Tour de Hongrie, la victoire d'une légende du sprint aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe.
Ouais, Mark Cavendish. Il a brillé au sprint après presque un an après sa dernière victoire. Le Britannique de 38 ans, il s'est imposé. On revit donc les derniers mètres de ce sprint avec les commentaires de Nicolas Lott.
Allez, le sprint final avec Mark Cavendish bien emmené par ses équipiers. Le coureur de la Q36 également qui lance de très très loin. Mark Cavendish qui lui a lancé de très très loin. Et Dylan Groenewegen pour l'équipe Jayco Alula. Mark Cavendish qui s'impose. Nouvelle victoire pour le coureur de l'île de Man. Magnifiquement emmené par ses équipiers.
Rendez-vous demain à 15h, troisième étape donc du Tour de Hongrie à suivre en direct sur L'Équipe Live. Fin de parcours pour les frères Lebrun. C'est du ping, comme disent les jeunes branchés, ou de tennis de table, comme je dis, les anciens, au grand smash de Jeddah, c'est en Arabie Saoudite.
Ouais, malheureusement, le duo de frères s'est incliné face aux Japonais Shinozuka et Togami. Défaite 3-0 malgré un match serré. Alexis et Félix n'ont jamais réussi à prendre l'ascendant sur leur adversaire. Les deux frères ont mené 6-2 au premier set avant de voir leur jeu se dérégler complètement. Plus tard dans la soirée, Félix Lebrun lui aussi est éliminé, cette fois-ci en simple, en quart de finale. Donc une journée noire pour le tennis de table français, les frères Lebrun.
On vient juste sur Cavendish parce que vous aviez le chiffre du nombre de ses victoires, c'est ça ?
164 ah, dans sa carrière. Bah, il a 38 ans.
Sans surprise, Nikola Jokic élu meilleur joueur de l'année en NBA.
Oui, comme vous le dites, mais c'était un peu une évidence. À 29 ans, Nikola Jokic a été élu meilleur joueur de cette saison. Un troisième trophée après ceux de 2021 et 2022 pour le pivot serbe. Il succède à Joel Embiid, le pivot des Denver Nuggets. C'était impressionnant de régularité. Quelques chiffres, 25 triple-doubles et 26 points de moyenne cette saison. Il entre dans un club très fermé, des joueurs à compter au moins 3 titres de MVP.
Pour la sixième saison d'affilée, c'est pas un Américain qui remporte le trophée de MVP de meilleur joueur de la saison régulière. Atalanta 3, OM 0, vous n'avez pas vu les buts, vous voulez les revoir, ça vous fait, voilà, vous fermez les yeux, vous continuez d'être avec nous, c'est à vous Greg.
Et malheureusement, l'OM devait gagner, ça n'est pas arrivé pour valider ce ticket pour la finale. Contre-attaque de Bergam dès la demi-heure de jeu, Lokman côté gauche vient défier Kondogbia et Gigot, ça fait 1-0, c'est légèrement dévié cette frappe par Gigot. Atalanta fait un premier pas vers la finale. Klaus sans contrôle pour Ndiaye. Le Sénégalais tente le lob, mais ça manque de précision. Le geste n'est pas très bien exécuté. Ça passe à côté. C'était la première action de cette seconde période. Marseille maladroit techniquement. Ruggeri s'appuie sur Lokman. Le U2. Le U2, et c'est parfait pour le défenseur. C'est pleine lucarne. Les Marseillais prennent un coup sur la tête directement au retour des vestiaires. Et puis en fin de match, Kondogbia lance, rate sa passe. El Bilal Touré pour le 3-0. Jean-Louis Gasset, à la fin du match, est revenu sur cette défaillance collective de ses joueurs.
C'est inexplicable. C'est inexplicable de passer d'une semaine à l'autre, rivaliser avec une bonne équipe. Et aujourd'hui, pour se qualifier pour une finale, être battu dans l'agressivité, dans tous les duels, c'est l'image de la saison. Voilà.
Voilà, une conférence de presse filmée par Nicolas Chébrillant, qu'on embrasse. Les notes de l'équipe du soir à présent, vous prenez le contrôle de l'émission. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été sujet d'un super duel, qui n'a pas été vraiment très apprécié par Damien Essiani. Vous lui mettez combien à notre buteur marseillais? C'est un 2, c'est très mauvais, très mauvais, 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 et... mauvais, on ne fait pas fondamentalement le débat. Il n'a pas été alimenté, mais il aurait pu mieux faire et pu mieux exister face aux défenseurs. On est bien d'accord. Autre chose à ajouter sur Pierre-Emerick?
Non, pas d'acharnement. Rien du tout. Hein? Pas d'acharnement.
Pas d'acharnement. Ah, Illiman Ndiaye. Donc ce soir, il était titularisé. C'était le petit changement par rapport au match aller, puisque c'est Sarr qui avait été titularisé comme deuxième attaquant. On prend les mêmes et on recommence. C'est 2-2. 3. Et de 2. Ah, Villepeuple, très mauvais. Président, mauvais. Voilà.
Non, parce qu'il peut lui accorder au moins l'envie de se battre. C'est lui qui a la seule occasion de but. Et il a réussi à garder quelques ballons, à faire des dribbles. Je veux dire, dans l'intensité, j'ai trouvé qu'il avait eu des moments où il existait un petit peu.
Je ne l'ai pas vu, moi.
Ah, ouais. Je vous assure. Mais il faut regarder les matchs.
Ah, bah si, je merci. Il a,
je veux dire, très mauvais. Vous êtes un peu sévère, il a été mauvais, mais il a existé. Il a eu le mérite, je pense que c'est un de ceux qui a touché le plus de ballons en première mi-temps dans les attaquants et dans les milieux.
Mais qu'est-ce qu'il voilà. Les a utilisé ?
Oui, mais dans ce contexte-là, mais il entre était mauvais,
il avait été
très mauvais
à ça, parce qu'il était censé apporter de la technique.
Non, la technique, de oui, ça. Il l'a apporté.
La technique, on ne l'a pas beaucoup vu. Hein.
Bah, si, il a réussi à se sortir de quelques situations, à garder un petit peu les ballons, à les donner. Il y a eu des moments... une courte période où Marseille a réussi à garder un petit peu le ballon.
Et je t'en prie.
Il en faisait partie. Là, vous êtes sévère.
J'ai noté Ndiaye.
C'était pas le pire.
Hormis son lob manqué, pas cadré, 14e minute, belle récupération de Veretout à la 14e minute. Ndiaye ne cadre pas sa frappe du gauche au 25 mètres. Et puis sinon, c'est tout. C'est pour répondre à notre président, comme quoi je ne regardais pas les matchs, mais je suis là. Le match d'Ndiaye, Illiman de son prénom, Candice Roland, qu'en pensez-vous? C'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est pas 10 en tout cas.
Alors, je dirais 3 parce que bon, ça reste un mauvais match, c'est sûr. Parce qu'effectivement, j'ai senti que, notamment au début du match, il a tenté un petit peu, il a essayé d'amener un petit peu de folie. Alors, c'était évidemment pas trop, vraiment sur la longueur. Ses actions, en tout cas, ses tentatives ont été vite arrêtées. Mais on a senti qu'il essayait. On sait qu'il a une saison difficile. On sait que dans la tête, c'est compliqué pour lui. Et donc, c'était un peu peut-être un pari aussi de la part de Jean-Louis Gasset. Et clairement, voilà, pari raté. Mais à la limite, je lui mettrais juste un point de plus par rapport à Aubameyang, parce qu'Aubameyang, c'est un cadre. Et c'est lui qui doit porter l'équipe et c'est lui qui doit montrer l'exemple. Voilà, Ndiaye, on n'attendait pas forcément qu'il fasse des miracles. Et bien, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, j'ai eu un sentiment quand même que, certes, il est jeune, certes, il a une saison difficile, mais il a quand même un tout petit peu essayé au début.
Candice, je vous rebranche sur Klose. Ça a été le fruit, en tout cas l'une des sélections du Super 2 dans l'équipe du soir. Klose, vous lui mettez combien Et Klose, était-il en état de jouer? Parce qu'au bout de 30 minutes, le gars était cuit.
Ouais, ça sera effectivement une des questions à avoir sur les prochains jours. Klose, c'est un cadre. Alors pour moi, c'est 2. Voilà, quand vous ne réussissez pas à prendre possession de votre couloir, quand vous êtes pris à revers, quand il y a contre-temps, quand vous n'arrivez pas forcément à ajuster vos centres, il en a eu très peu à faire aujourd'hui. Forcément, bien, c'est très mauvais.
Très mauvais. Donc c'est 2. Klose, c'est 2. 2. Vous êtes abonné aux 2. C'est facile ce soir. 2 aussi. 2. Klose, il est dans le pack pour faire l'Euro quand même. Il y a des chances où à regarder les matchs, il n'était pas à Bergame, mais sur les garanties défensives de Jonathan Klose, c'est parfois une petite musique qui revient, chose comme ça. Ce soir, il ne marque pas les points, le duo. Hein.
Non. Après, effectivement, c'est une bonne question de savoir s'il était en état de jouer ou pas, parce qu'au bout d'une demi-heure, être dans cet état-là.
Et franchement, ouais.
C'est, pardon, étonnant. Mais s'il était en état de jouer, y a un problème quand même. Mm.
Ok. Pas Lopez ou Pau. Lopez, qui a été plutôt pas le meilleur Marseillais ce soir, le plus en vue, non? Enfin, en tout cas, c'est celui qui a été le plus décisif. C'est la moyenne. Oui. Match moyen, 5. Et il y a le petit point en plus de Raymond Tsiani. Tsiani, le président vous dit que vous avez la priorité. C'est à vous de jouer.
Non, mais je trouve qu'il a fait quelques arrêts qui évitent que l'OM reparte avec une valise beaucoup plus lourde. Alors effectivement, il y a 3-0 et c'est bizarre d'avoir un gardien quand même au-dessus de la moyenne, mais je pense que je l'ai vu faire des matchs beaucoup plus inquiétants cette saison et là, il a essayé, il a fait son match et je pense que sur les buts, il a sa responsabilité n'est pas mise en cause. Pour
sur,
moi.
Les buts, sur les buts, il n'y peut rien.
Il y a des beaux buts.
Il les prend à l'écran, hein, on est bien d'accord, ouais. Hein. Ok, donc 6, 5. C'est le meilleur Marseillais pour vous ce soir?
C'est le moins mauvais.
Oui.
Non, mais il peut rien.
Il fait un bon match.
Non, il fait un bon match, mais il ne fait pas d'exploit non plus quoi, ouais. Sur les buts. Ouais. Bon, le premier, le ballon est détourné par Gigot. Compliqué.
Mais il est proche de...
Enfin, le deuxième, il est magnifique.
Mètres, hein. La frappe, elle est aux 16 mètres. Elle est
ouais, là, non, mais ouais, 5, 6. Non, oui, c'est le meilleur Marseillais, effectivement. Le
meilleur Marseillais?
Oui, clairement.
Non, on peut même dire que lui, il a fait un bon match. Tu peux pas dire qu'il a fait
un bon match.
Non, je n'ai pas dit qu'il a fait un bon match.
Il n'a pas fait de faute.
Pas d'exploit non plus.
Enfin...
Sur la tête de...
De Ketteler.
De Ketteler, oui.
Il faut aller le chercher. Sur la sortie dans les pieds, à un moment, sur le petit, celui qui a marqué le premier
Lokman.
But. Sur Lokman. Il va la chercher et c'est lui qui plonge dans les pieds. Il prend le risque de se jeter. Moi, je trouve qu'il a fait qu'il a été plutôt... Il n'a pas fait de faute au pied. Il n'a pas fait d'erreur de relance.
Ses placements étaient bons et on a vu en première période que Bergame avait un petit peu croqué certaines occasions. C'est aussi parce qu'il bouchait bien les angles, qu'il Il a embêté les attaquants.
Vertu, sur le site L'Équipe, il n'a pas la moyenne, mais il a 4,2, ce qui est plutôt une bonne note par rapport à la note moyenne générale des Marseillais ce soir. Parce qu'on a commencé avec des 2, 4, c'est pas satisfaisant. Moi, c'est le seul qui a surnagé, je trouve.
Oui. Surnagé.
Bah, surnagé, oui. Ouais. Et j'ai pas dit qu'il a volé. Hein.
Les autres,
bah, parce que surnagé, il s'est pas noyé.
Lui, dans l'engagement, dans la volonté de se replacer à la perte de balle, il est toujours là, quoi. Donc, on peut pas.
Ouais, il était un peu plus généreux dans l'effort que les autres, ça c'est incontestable. Voilà. Mais dans l'utilisation du ballon, ça n'a pas été grandiose non plus. Moi, là, pardon, il fait un coup franc qui rebondit sur la barre. Ouais. Mais il en fait.
Deux récupés hautes.
Il y a un deuxième qui met dans les bras du gardien.
Deux récupés hautes en début de match à la 11e minute. Oui. Belle récupé haute pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais qui rate son duel face à Hein, on en a parlé. Et une deuxième récup pour Ndiaye qui ne cadre pas sa frappe. Et on avait parlé plus de la frappe ratée d'Ndiaye que la récupé haute. 25e minute, à un moment, je voyais le truc était mal parti. Une minute avant, Scamacca met un ballon sur le poteau. Et entre la 25e minute, c'est Vertu, je dis heureusement qu'il y a Vertu, j'avais noté ça, récupéré autre, qu'il y fait un peu jouer côté gauche de la défense. Je dis enfin ils sont un peu plus haut et enfin c'est lui qui donne un peu le tempo. Mais c'est vrai que ça n'a pas été à jet continu, hein, notre.
Non, ça peut être. Après, à sa décharge, il a dû quand même pas mal compenser les défaillances de.
Ouais, de Kondogbia.
Kondogbia, donc.
À Kondogbia, il intercepte, mais alors sur la passe, pied beurré le mec. Hein. Il est beurré. Non, ça beurre. Candice Roland, le match de Jordan Veretout, le moins mauvais, celui qui échappe au naufrage, qui surnage ou pas, ou ça met dans le même panier.
Ouais, le meilleur joueur de champ, en tout cas, du côté de l'OM, je suis d'accord. Moi, je lui mets la moyenne aussi, effectivement. Elle a encore beaucoup couru, essayé de compenser un peu les erreurs des autres. Sur coup de pied arrêté, pas toujours impérial, mais plutôt intéressant. Il y a même un moment où il avait placé un ballon pour jouer un coup franc. Et puis finalement, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui lui a pris un peu de manière presque autoritaire. Il a été coulé, il lui a laissé, mais et finalement, ça a fini dans le mur pour Aubameyang. Donc, je trouvais que voilà, c'était du verre et tout. C'est-à-dire que quand les autres sont pas bons, eh bien, lui, il est moyen, à la moyenne. Et quand les autres sont bons, il est très bon. Voilà. Encore un match comme ce soir, comme ça, qui vient confirmer un peu sa supériorité au milieu de terrain.
Faites gaffe, il a demandé une augmentation après cette intervention. Merci Candice. Fin de l'équipe du soir pour vous. On vous embrasse. Vous saluez évidemment l'homme qui vous met en image derrière la caméra. C'est le Chex, une légende du côté de Marseille. On vous embrasse. Passez une bonne soirée, malgré tout, malgré cette élimination. Et la saison continue donc pour l'Olympique de Marseille. Donc, 3 matchs à disputer. Contre l'Orient à domicile, puis après 2 matchs à l'extérieur, à Reims et puis au Havre. Est-ce une saison ce soir? Là, on peut le dire, on peut commencer à faire le bilan, à avoir les phrases, on va dire, un peu définitives. Est-ce officiellement un fiasco ce soir? On en parle comme ça, sans habillage et tout ça. Parce que là, officiellement, c'est un fiasco. Ils sont 9e. Ah non, vous dites non.
Non.
Ça, c'est non. Je veux pas vous. C'est bien ça.
Oui, non, effectivement.
Donc, est-ce une saison qui est officiellement un fiasco?
Le mot est quand même dur parce qu'ils sont quand même demi-finalistes d'une Coupe d'Europe. Après, globalement, effectivement, en championnat, ils ne sont pas du tout là où ils attendaient. Pour moi, l'OM doit être sur le podium tous les ans. Donc, on ne peut pas se satisfaire de cette 9e place, même s'ils ont un match en retard. Mais ça sauve un petit peu le bilan d'avoir fait un bon parcours en Coupe d'Europe. Donc c'est le terme fiasco qui me paraît un peu sévère.
250 millions d'euros de budget, je revois toujours le célébrissime numéro de l'équipe sur les salaires. Ah oui. À chaque fois, je suis toujours halluciné.
Sur le budget.
Sur le budget, sur la façon dont sont rémunérés les joueurs. Je ne veux pas dire qu'ils sont trop payés, mais par rapport à la qualité, ce soir face à l'Atalanta Bergame, l'OM a quand même un budget de 250 millions d'euros. Voilà. Enfin, ça pèse quand même.
Mais si on s'arrête au budget, Brest n'est pas là. Évidemment que ce n'est pas que ça. Et heureusement que ce n'est pas que ça, que le budget ne fait pas tout.
Ah non, mais d'accord, je veux bien, mais je n'en ai pas pour mon argent.
C'est une saison ratée, ça c'est sûr.
Fiasco,
quoi
trop dur.
Il arrive. Fiasco, j'attends de savoir s'ils sont européens ou pas.
Ah, la Ligue Europa Conférence, maintenant, hop, ils ont les pieds au sec.
Ça limite le fiasco, quoi. Ça reste une saison ratée, parce qu'en plus, c'est d'autant plus raté qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, a priori, Il n'y a que la septième place qui peut les. Ils arriveront pas à la sixième place, les Marseillais. Donc pour être septième, il faut qu'ils supportent Paris Saint-Germain
ouais, en plus
de la Coupe de France.
Plus,
ouais. Donc pour que les Marseillais. En
et ça c'est
là,
pas.
Là, on est quand même, on est quand même, on flirte avec le fiasco.
On flirte, mais on y est.
On flirte avec, mais bon, disons que les Parisiens peuvent leur éviter le fiasco.
Damien, vous étiez parti, c'est pas un fiasco machin. Vous ouais. commencez à développer. Évidemment, vous dites finalement l'argument, c'est plutôt un fiasco. On est bien d'accord.
On
n'est pas loin.
Un mot parce qu'on.
On évoquait la Coupe d'Europe. Bon, il ne faut pas oublier quand même qu'ils étaient en Ligue des Champions au départ, les Marseillais. Et que le fiasco, il arrive très vite. Mmh. Contre le Panathinaikos, puisqu'on évoquait les clubs grecs, ils sont rarement performants en Coupe d'Europe, puisque justement, avant l'Olympiakos ce soir, il n'y avait que le Pana qui avait fait une finale européenne. Le Pana, il sort Marseille. Ensuite, l'homme qui a fui, le fameux Marcelino qui s'en va. La saison commençait très mal. Donc le fiasco, il est déjà là. Et donc que derrière, il y ait ce beau parcours européen qui est incontestable en Ligue Europa, il fait suite quand même déjà à une énorme désillusion européenne pour commencer la saison. Et je me rappelle aussi du mois d'août, on regardait le mercato marseillais, on disait, honnêtement, il a quand même un peu de gueule, quoi, entre Aubameyang, entre...
Ouais,
Moi, je ne me souviens pas.
Et je me dis d'autant plus facilement que Pablo est présent. Ça, c'est un fiasco.
Oui, c'est vrai.
Pour le coup, le mercato de l'OM est un fiasco. Moi, je ne comprends pas.
J'ai entendu des bruits différents. Et surtout, pour finir là-dessus, c'est qu'on a quand même une équipe de Marseille qui est construite par Longoria pour jouer la Ligue des Champions, justement, et pour se qualifier.
Avec
et pour jouer le podium. Oui, Marcelino.
Enfin, Longoria a construit pour jouer avec des champions, mais ils la font pas avec des champions. Donc, dès le mois d'août, on sent que
c'est... Au moins, pour accrocher le podium et essayer de la rejouer la saison prochaine. Et là, on en est aussi très loin, puisqu'on sait qu'ils la joueront.
Mais là, c'était même carrément de rallier la Ligue des Champions. C'est une équipe qui était... Voilà. Mais ils avaient évidemment changé de fond en comble à la maison de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, une question à Jean-Louis Gasset sur Gasperini, sur cette permanence au club, sur cette longévité du coach. Ce qui était une question un peu en creux sur l'Olympique de Marseille, finalement, ces changements incessants.
Un message aussi, effectivement, avant de partir, puisque maintenant il arrive bientôt au bout de l'intérim, comme on l'a nommé. Il y a quand même une réflexion globale de fond à mener sur ce qu'est l'Olympique de Marseille, sur la structure de ce club, sur sa trajectoire depuis maintenant 3 ans, la prise de fonction de Pablo Longoria, qui était... plus qu'en difficulté, quasiment sur le départ. Enfin, lui-même l'avait annoncé dans une espèce de bluff dans cette début de saison totalement ahurissant avec cette soirée du 18 ou 19 septembre, je ne sais plus, où ça a failli tout exploser en vol. Ça se termine avec 4 entraîneurs dans la saison et on ne sait pas comment se dessine la suite. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une espèce de flou artistique. Alors on avait dit à un moment donné, ça va changer. Il veut partir, il peut pas parce qu'il y a une histoire contractuelle. Il y avait l'arrivée de Tessier qui semblait... puis finalement, Tessier va s'en aller. Où on va, en fait, à l'OM? Où on va? Donc en fait, il y a cette Coupe d'Europe qui a redonné un petit peu d'espoir. Mais quelque part, c'était l'arbre qui cache la forêt. Là, l'arbre, il est tombé et on va se retrouver devant ce nouveau bilan. Donc les Marseillais ne savent pas où ils vont avec ce club, avec cette direction.
Ils sont 9e.
Et on ne se retrouve pas devant la forêt, on se retrouve devant le désert.
Devant le désert plutôt, oui. Voilà.
La forêt, c'est trop riche. 9e actuellement, l'Olympique de Marseille, qui vise éventuellement une 7e place, tout en comptant, Damien, le poignard d'or, nous le rappelait, une victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon pour que la 7e place soit européenne pour cette prestigieuse C4, la Ligue Europa Conférence. Doucement parce qu'on n'a toujours pas gagné. Jean-Louis Gasset, il y a quelques minutes en conférence de presse, déclarait l'union sacrée. 3 matchs contre Lorient, Reims, Havre, et déclare l'union sacrée pour évidemment rallier cette 7e place. Écoutons-le.
Et au niveau du championnat, l'OM se doit de terminer européen l'année prochaine. Donc il reste 3 matchs. Il faut vite se remettre au travail. Remettre les têtes à l'endroit, savoir qu'à l'extérieur c'est insuffisant, qu'on n'arrive pas à se mettre à la hauteur de l'événement. Et c'est ce qui est dommageable pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, mais il faut faire l'union sacrée, tout le monde, pour que Marseille finisse européen.
et ce sera la mission qui se terminera pour Jean-Louis Gasset. Plus que trois matchs, Lorient, Reims et Le Havre. Et la succession de Jean-Louis est déjà lancée. Il y a un candidat qui s'est déclaré ce soir dans l'équipe, Greg.
Oui, effectivement, c'est un homme qu'on a commencé un peu à entendre parler puisqu'il a quitté tout simplement son club. C'est à Habib Bey hier, il a officialisé cela. Il est dans le Red Star après la validation de la montée en Ligue 1. Demain, dans votre journal L'Équipe, un entretien exclusif à retrouver avec Habib Bey. Un petit extrait où il évoque notamment ses ambitions. Regardez ce qu'il déclare. « J'ai une ambition qui est très élevée. Aujourd'hui, je l'assume. Je suis prêt à aller en Ligue 1 et je l'ai démontré dans mon travail. Si l'OM m'appelle, j'y vais en courant. Je n'ai aucun problème à le dire. » Tout l'entretien avec Habib Bey à retrouver demain dans le journal L'Équipe.
Habib Bey, coach de l'OM pour la saison prochaine. Ça vous plaît ? Ou pas. On vous laisse un peu de réflexion, chers téléspectateurs. Vous pouvez aller sur soit le site L'Équipe, soit X, L'Équipe Foot, sur Habib Bey. On en parle dans quelques minutes avec les copains de L'Équipe du soir. A tout de suite. Dernière ligne droite de L'Équipe du soir. Tiens, la une de L'Équipe avec Greg Noali. Greg, on ouvre par l'OM demain, L'Équipe ?
Bien sûr, on ouvre par l'OM et ce mot éteint les Marseillais avec en une notamment, on peut retrouver Kondogbia, Balerdi, Aubameyang, le jeune Ouattara. Et puis, si vous regardez tout en haut, le petit encart, un entretien exclusif d'Habib Bey qui s'est positionné potentiellement comme futur coach de l'Olympique de Marseille.
Bah oui, on a découvert sa déclaration grâce au travail journalistique de Greg Noali qui a les yeux partout. Habib Bey, donc candidat. Hein. Candidat, c'est une idée plus d'Habib Bey que de l'Olympique de Marseille, même si son nom revient un peu, mais c'est plutôt lui qui a la volonté. C'est une déclaration d'amour. J'ai une ambition qui est très élevée. Aujourd'hui, je l'assume. Je suis prêt à aller en Ligue 1. Il était entraîneur du Red Star, 3e division. Je suis prêt à aller en Ligue 1 et je l'ai démontré dans mon travail. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant. Je n'ai aucun problème à le dire. Ça vous plaît, Habib Bey, à Marseille ou pas ?
Oui.
Ouais. Oh, youpi.
Oui, oui,
youpi.
Non, mais oui, parce qu'on on le voit un petit peu à l'étranger, il y a des jeunes entraîneurs qui arrivent comme ça et auxquels on laisse leur chance. Alors je ne dis pas que c'est le futur Xabi Alonso, mais voilà, dans sa manière de parler de football, moi je trouve ça très plaisant. J'espère que ses idées, il va pouvoir les concrétiser sur le terrain. Alors j'ai moins vu le Red Star que Damien, mais... il a l'ADN de l'OM, il y a joué, il était capitaine de l'OM, donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée qu'il revienne à l'OM et qu'il se lance là-bas.
Dans la série des questions toutes faites, vous savez que j'ai fait une école de questions, les grands joueurs sont-ils forcément des grands entraîneurs ? On a parfois des réponses qui sont, il n'y a pas forcément de tendance, depuis qu'il y a Zidane qui a réussi. Les grands consultants ou les bons consultants font-ils des bons entraîneurs ? Raymond Domenech, à vous de jouer.
Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Après.
Parce qu'il est bon consultant.
Oui, mais quand être consultant, c'est juger ce que font les autres.
Ouais.
Et expliquer ce qu'ils devraient faire. Mais une fois qu'on est de l'autre côté et qu'on doit le faire soi-même, on a beau dire on devrait faire comme ça, mais il y a une équipe en face et il y a des joueurs qui parfois ne sont pas trop réceptifs. Jean-Louis Gasset, il essaye à tous les matchs de le faire, mais ça marche pas.
Et regardez, il regarde l'équipe du soir, c'est pas Habib Bey.
C'est
Nabil Djellit, Nabil. Tout de suite, au moment de Habib Bey qui se déclare candidat, vous êtes sorti de votre léthargie, c'est vrai que vous étiez en train de roupiller devant le match de l'OM. Habib Bey à Marseille, ça vous plaît, ça vous emballe Allons-y, opinion, mon cher Nabilou.
Bah oui, j'étais en train de vous regarder, là. J'avais du mal à digérer le match de l'OM. C'est pour ça que je me suis mis sur mon transat intestinal, voilà, au passage. Déjà, je trouve que la saison de l'OM, c'est un fiasco. Je n'étais pas trop d'accord avec le plateau. Le contenu, là, ce soir, il est humiliant pour l'Olympique de Marseille. Ça aurait pu faire 5-0, mais bon, bref. Et Habib Bey, oui, moi, je suis plutôt pour. C'est un jeune coach, il a des idées, il a toute la légitimité. Il a mis les mains dans le cambouis, là où certains attendent. Lui, il a été en national. C'est un championnat qui est compliqué. C'est un championnat qui est difficile. Il a réussi à faire monter son équipe, et non pas seulement sur les résultats, mais aussi avec une manière de jouer. Je le trouve charismatique. Je pense que c'est un garçon qui a une expérience aussi de joueur. Il est passé par plusieurs championnats. Il a joué en Angleterre, il a joué en France. Il a été capitaine de l'OM. Si on vous avait dit, par exemple, Pierre Sage, entraîneur de l'OL en cours de saison, tout le monde était sceptique, tout le monde le voyait comme un intérimaire. alors qu'il y a d'autres noms ronflants qui sont venus et qui n'ont pas fait grand-chose. Et ben Stania, l'Olympique de Marseille, en plus de l'instabilité des joueurs, on a eu l'instabilité des entraîneurs. Moi, je ne vois pas pourquoi Bibey ne pourrait pas être entraîneur de l'Olympique de Marseille. Tout simplement.
C'est un cavalier seul de Nabil Djellit. Une question un peu intéressée, Damien Degore, à votre encontre, mon cher Nabil. Damien, je vous présente Nabil.
Bonsoir Nabil.
Bonsoir Damien.
Bonsoir Nabil, j'espère que ton transit se passe bien. J'avais juste une question à te poser, moi non plus, hein, j'ai rien contre Habib Bey, au contraire, ça me ferait plaisir de le voir sur un banc de Ligue 1. J'aurais juste que tu me décrives son style de jeu. Parce que, non, je vais pas te tendre le piège jusqu'au bout, mais moi je suis allé les voir jouer pas mal de fois. Et je suis incapable de te dire ce que c'est son style de jeu.
Ah bah écoute, ce que je te conseille, parce que là je vais finir de manger, c'est de lire l'excellente interview de Hugo Delhomme dans le journal L'Équipe, demain. Elle est déjà sur le numérique et tu verras, c'est hyper intéressant et on apprend pas mal de choses.
Il est trop fort.
Très bien. Le Transat, mais assez agile sur le Transat. C'était qui son avant-centre, Nabil ? C'était qui son avant-centre ? C'est l'homme qui... Shake and Doy. Hein, le check and doy avant-centre, ça va à la mayoche. Hein.
Ouais, check and doy, il a la tête dans le score à une époque, mais bon.
Ouais, d'accord, ok. Bon, vous en tirez avec un petit
peu.
Mais en tout cas, le message est passé. Habib Bey à l'OM, vous, ça vous plaît, ça vous emballe. Oh là, attention, le looping de Nabil Djellit. Nabil, merci d'avoir agi si rapidement.
À bientôt. Ouais.
On vous embrasse.
Je dis ce que disait Siani, c'est vrai. Je dis en Allemagne. Ils nous sortent des entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui ont fait des carrières avant, qui n'ont même pas des fois été des joueurs de haut niveau,
oui, c'est surtout ça.
Qui ont construit et on leur donne leur chance. Je dis, il y a des grands clubs, pour faire des grands entraîneurs, il faut qu'ils aillent aussi dans ces clubs-là. Tous ceux qui passent à Dortmund...
Terzic, il n'a pas fait une immense carrière.
Non, ils sont dans un club où ils ont des moyens, ils ont la capacité de faire quelque chose et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Non, moi j'aimerais bien que ça se fasse.
Ok, très bien. Et ben voilà, soutien de l'ancien président du syndicat de l'UNECATEF, Raymond Domenech. Hein, vous lisez bien les entraîneurs.
Ça ne m'empêchera pas toujours de défendre les entraîneurs.
Non, vous inquiétez pas. Tchouaméni blessé, encore un bleu blessé, Aurélien Tchouaméni, fracture de fatigue du pied gauche. Les détails avec le professeur Vincent Deluc, qui est journaliste, mais aussi professeur. C'était cet après-midi dans l'équipe de Greg. Écoutez-le, ils nous ont dit un petit peu plus sur cette blessure.
Il va être absent 3 à 4 semaines. Ils n'écartent pas complètement la possibilité qu'il soit sur le banc à Wembley, mais lui a déjà pris des risques et il ne veut pas reprendre des risques avec son pied avant l'Euro. Et il n'est pas. Voilà, probablement qu'il prendra. Qu'il ne fera pas n'importe quoi pour jouer 5 minutes ou un quart d'heure à Wembley juste avant l'Euro. Et pour l'Euro, bah, il faut voir comment ça tourne parce que c'est une blessure qui est embêtante. On l'a vu avec Neymar. En fait, c'est la conséquence de sa première fracture qu'il avait écarté des terrains pendant un mois et demi à deux mois en octobre-novembre.
Fracture de fatigue du métatarse.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est visiblement l'os à côté en fait qui a un œdème s'est créé sur l'os à côté à cause justement de la cicatrisation du premier. Et voilà, c'est des trucs qui peuvent vraiment être embêtants, qui peuvent durer un peu.
On est à 39 jours de France-Autriche. Tchouaméni, donc, et c'est pas le seul victime d'une blessure. L'inventaire est le suivant. Lucas Hernandez, depuis le match aller contre Dortmund, c'est terminé pour l'Euro, tout comme Boubacar Camara. Mac Maignan, lui, a des adducteurs qui sont un peu en surchauffe. Ça devrait aller, mais il n'est pas au summum de sa forme. Coman se remet, lui, d'une déchirure toujours aux adducteurs. Puis des blessures qui tournent. Et il y a aussi d'autres bleus qui ne sont pas fondamentalement dans la forme de leur vie. Période délicate pour Randal Kolo Muani, Mbappé, Upamecano, Konaté, Nkunku qui vient de reprendre, Griezmann qui a du mal à retrouver aussi sa forme depuis sa blessure à la cheville en février. Un des blessés, les joueurs en méforme. Est-ce qu'il faut dégrader la note de l'équipe de France qui était favori? Est-ce qu'ils sont toujours favoris? Voilà, favoris de l'Euro parmi les favoris. Et le Villepeuple a dit oui, ouais, ils sont toujours favoris. Donc il suffit d'enfiler le maillot bleu, les gars. On est favoris. Non. Allez, expliquez-moi, non. Racontez-moi.
Qui a dit ça ? Non, il ne s'agit pas de dire que rien n'a changé et que tout va bien sous le soleil, sous le ciel bleu de l'équipe de France.
C'est préoccupant quand même. Hein.
Non. Après, il reste quand même quelques semaines.
39 jours.
La préparation, elle n'est pas longue, mais
voilà.
Pour les joueurs en méforme, l'histoire de l'équipe de France récemment, elle est faite aussi de joueurs parfois en difficulté en club qui ont su se transcender en bleu. Et ça, pour le coup, Didier Deschamps et son staff sont quand même un peu spécialistes. C'est vrai que cette équipe de France, avec son vécu, avec son parcours de qualification, elle était présentée logiquement comme favorite de cet Euro. Elle n'est plus au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Allemagne s'est refait la cerise, l'Angleterre reste une valeur sûre, le Portugal, on le cite rarement, mais c'est une équipe qui aura aussi son mot à dire. Peut-être un ton en dessous l'Espagne, mais voilà. Puis on sait que l'Euro, c'est aussi particulier parce que souvent les premiers tours sont difficiles.
C'est dense.
Et qu'on y laisse des plumes et qu'il y a aussi des favoris qui tombent dès le premier tour. Mais l'équipe de France, elle l'a prouvé aussi au Qatar. Elle est capable de traverser. Il ne faudrait pas qu'il y en ait plus que ça. Mais à l'époque, maintenant, on s'est habitué à l'idée que Pogba, Kanté, c'est terminé. Mais
Benzema.
Il y avait encore les espoirs à ce moment-là. Il y a eu Benzema, il y a eu Nkunku, il y a eu Maignan, il y a eu Kimpembe.
Déjà Lucas Hernandez.
Donc ça a marché une fois. Ça a marché une fois, donc il n'y a pas de raison que ça remarche. Je trouve que c'est hasardeux, en tout cas c'est audacieux, c'est téméraire comme mode de pensée.
C'est qu'on a, pas à tous les postes, mais on a quand même énormément de choix.
Randall Kolo Muani qui a remplacé Nkunku, qui a fait un bon mondial, mais là aujourd'hui, il a la carte.
S'il n'est pas performant ou s'il n'est pas disponible, vous avez des options.
Monstrueux. C'est un peu fort comme
point. Ouais, il est quand même énorme. Quand tu compares aux autres...
Quand Deschamps a fait tourner pendant la Coupe du Monde, on s'est quand même rendu compte qu'il valait quand même mieux avoir une équipe avec des titulaires. Parce que t'as... Oui, mais tu vois, dans ces proportions-là, quand même, c'est la Tunisie, le match, où tu te dis quand même, on n'a peut-être pas non plus un vivier d'aussi bonne qualité que les top niveaux.
En tout cas, on peut avoir un peu... 39 jours de France-Autriche, vous n'êtes pas plus inquiet que ça.
Si, non, mais moi... Moi, je suis pas démesurément optimiste. Quoi. Je trouve que le déjà l'état les blessés, c'est pas n'importe qui. Lucas Hernandez. Alors effectivement, l'équipe de France est quand même allée en finale sans Lucas Hernandez. Oui. Mais il y avait Pogba quand même qui avait un rôle important.
Pogba, non, il n'était pas là.
Non, il n'était pas Pogba, il n'y avait pas Pogba.
Il y avait Tchouaméni.
Il y avait Tchouaméni, par contre. Il y avait Tchouaméni. Là, Tchouaméni, on ne sait pas dans quel état il va être. Coman, on sait à quel point Deschamps aime bien utiliser les deux dans le match. Un coup Dembélé, un coup Coman, parce qu'il y en a un qui va fatiguer l'adversaire, le latéral, et l'autre qui va arriver et qui va l'achever. Là, il n'y aura plus que Dembélé. Mbappé, j'aimerais savoir dans quel état il va être aussi psychologiquement après cette fin de saison avec le PSG. Il y a quand même des raisons. Maignan, est-ce qu'il est prêt à enchaîner un tournoi dans son intégralité sans se blesser? Il y a pas mal d'éléments qui font que c'est dur d'être trop optimiste.
Okay.
Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que quand on est trop optimiste, comme en 2021,
ça passe.
Okay. Quiz à présent, le thème du soir, et c'est Raymond Calais Joker. J'ai disputé une finale de Ligue Europa avec l'OM.
Oui.
Classique, bah oui, c'est un peu cruel, mais bon, on va finir quand
déjà,
même
par... Déjà, il n'y a pas Klose, Aubameyang.
J'aurais dû réviser.
Par des bons souvenirs. C'est vrai ? J'aurais dû ?
J'aurais dû réviser.
Pas le mauvais élève. Interro surprise, Raymond au tableau. Bon, allez, les petits. J'ai disputé une finale de C3 avec l'OM. Il y en a eu 3, 99, 2004 et 2018.
C'est un joueur marseillais ?
Oui, bah, j'ai disputé une finale de Ligue Europa avec l'OM.
Français ?
Pas français, avec l'OM. Il y a des Français, il y a des étrangers qui jouent à l'OM.
Ah, peut-être, oui. Mais...
Allez, je suis titulaire en 2004. Je prends d'ailleurs un carton rouge.
Barthez.
3 points pour Damien Degor. J'ai manqué une grande compétition en me blessant.
Payet.
Qui était le premier ? C'est Siani, hein ?
Ah non, c'est vrai.
C'est Siani la première. Ouais, c'est Siani, moi je devais c'est Siani. Siani, merci. Au revoir.
Nico,
j'ai manqué une grande compétition en me blessant, c'est donc pas Payet. Indice numéro 2, pour 3 points, je suis attaquant. C'est pas facile celui-là. Je suis titulaire en 2004. Allez, il va falloir aller trouver.
Drogba.
Drogba, non. J'ai joué aussi à Lyon, au Serre ou encore au Red Star. Red Star.
J'ai trop.
Oui, oui. Bah oui.
Ah, je sais.
J'ai joué à Lyon, au Serre.
Eh oui.
Lyon, au Serre, OM, Red Star. Steve Marley.
Ah, okay. Ah oui.
Attention, j'ai disputé une finale de Ligue Europa ou de Coupe de l'UEFA. Donc avec l'OM, j'ai porté le brassard en finale. Alors c'est...
Payette.
Payette ? C'est pas lui. Attention, je l'ai récupéré du bras de Payette, sorti sur blessure. Donc on est en 2018.
Mandanda ?
Mandanda, c'est pas Mandanda, c'est dommage. Milieu de formation, j'évoluais... Comment ?
Non, Thauvin, j'ai dit.
Thauvin, merci. Milieu de formation, j'ai volé ce soir-là en défense centrale. Ah. Un milieu qui a reculé en 2018, Cal Brassard. Je suis brésilien.
Eh oui.
Luis Gustavo.
Comment? À l'épuisette, vous pouvez y aller. Hein.
Le nom est dire.
Gustavo. Ouais.
Et j'ai pas entendu.
Luis Gustavo, merci beaucoup. Si vous soufflez, soufflez ah, plus fort, les mecs sont sous. C'est tout?
Rapide. Ah, bah.
Ah, c'était oui, rapide.
C'est rapide.
Au revoir, on vous dit au revoir.
C'est mon qui a joué la montre tout à l'heure.
Ah, c'est, tout est de votre faute, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est pas possible. On vous embrasse.
Dommage pour tirage de maillot
demain pour la Ligue 1. Et peut-être des thèmes sur l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui nous ont déçus cette semaine. On vous embrasse. À demain. Un peu. But still, I can lose my temper. Yeah. How can we keep on watching that fucking TV?